m'entendez pas dans le fond. Alors, comme ceci, est-ce que vous m'entendez? Bon, alors, je vais faire un effort particulier pour continuer de cette façon. S'il arrive que vous ne m'entendez plus dans le fond, manifestez-le en levant les mains et non pas en criant, ce qui serait pire, et je ferai un nouvel effort. C'est tout ce que je peux faire. Maintenant, arriverai-je à maintenir cet effort tout le long de la séance? On verra bien. Bon, alors, je vous signale donc, j'insiste d'abord sur le fait que la session s'étend sur les deux trimestres. Il y aura vraisemblablement 7 ou 8 séances au premier trimestre de l'année 72 et les dernières au second trimestre après Pâques. Le partage exact n'est pas connu. Il y aura des vendredis pris par des activités centrales. Il y aura la veille de la conférence, le 4 février, nous ne ferons presque certainement pas de séance, mais vous le saurez, tout cela à temps. Le fait qu'il y ait un plus grand nombre de séances permet d'une part d'approfondir un peu plus certaines questions. Beaucoup de camarades s'étaient plaints et de concentrer moins les choses que ça n'a été. Beaucoup de camarades s'étaient plaints que les deux exposés sur l'économie étaient extrêmement denses et par là même difficiles à suivre. Il devrait être possible cette fois-ci d'en faire 3 et d'une part de traiter quelques questions supplémentaires, d'autre part de s'expliquer mieux. Enfin, j'ai marqué 2 exposés sur la révolution russe et la révolution allemande. Ce sont ceux qui sont marqués là, 6 et 7. Entre-temps, et n'enregistrez pas mes aveux, ça va être marqué pour l'histoire, je me suis mis l'autre soir, je vous dirai pas quand, à 8 heures du soir, avec une centaine de copies à corriger d'ici le lendemain matin. Et puis au bout de 10 minutes, j'ai tourné. Ce que par contre j'ai pu constater, je m'en doutais déjà, c'est le caractère absolument fondamental de ce livre, du point de vue à la fois, il est sensationnel avant tout parce qu'il raconte une histoire sensationnelle, c'est-à-dire cette période de la Révolution allemande, où les problèmes politiques qui ont été posés sont par nature beaucoup plus proches des problèmes que nous avons à affronter aujourd'hui, parce qu'il s'agissait de la Révolution dans un pays avancé avec une classe ouvrière organisée déjà en puissantes organisations de masse et ayant derrière elle une longue tradition, c'est-à-dire de conditions incomparablement plus proches des nôtres que la Révolution russe. Et deuxièmement, parce que je me suis aperçu, je ne me rendais absolument pas compte à quel point, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, qu'il s'agisse du front unique, qu'il s'agisse d'abord du gauchisme et sous des formes exactement semblables à celles que nous rencontrons, à ceci près que les acteurs de ce gauchisme étaient souvent des militants ouvriers authentiques et non pas des histrions petits bourgeois. Mais toutes les questions y ont été posées, auxquelles nous avons à faire face aujourd'hui. La centralisation des partis, la décentralisation, les comités de base, tout cela a été posé en long et en large. Le problème du front unique, sous la forme précise sous laquelle l'international l'a posé, non pas seulement sous la forme d'une stratégie globale qui, de ce point de vue, est essentielle au marxisme et est aussi bien celle de Marx que celle de ses successeurs, mais du point de vue d'une tactique spécifique dans des conditions historiques comparables aux nôtres, a été posée pour la première fois par la fameuse lettre ouverte de janvier 1921 du Parti communiste allemand, condamnée immédiatement par l'Internationale communiste, puis soutenue par Lénine et approuvée par Lénine, comme vous pouvez le voir dans les annexes de la maladie infantile du communisme. Enfin, le problème du gouvernement ouvrier a été posé sous toutes les formes sous lesquelles nous pouvons le rencontrer aujourd'hui. Il y a eu Zinoviev pour dire le gouvernement ouvrier, au fond, c'est la dictature du prolétariat. Et puis le 4e congrès de l'Internationale communiste, dans la résolution qui a été reproduite par Information ouvrière il y a quelques semaines, est venu et a dit non, c'est pas du tout ça, il y en a plusieurs sortes. Et quelle est leur signification exacte? Tout cela a été posé sous tous les angles possibles, et on peut dire d'ailleurs que les Allemands ont fait toutes les erreurs que nous faisons. Situation évidemment assez satisfaisante, à ceci près que les erreurs faites par le Parti communiste allemand à cette époque avaient des conséquences d'encore beaucoup plus grande envergure que celles que nous faisons, Mais de toute façon, il serait peut-être préférable que nous apprenions sérieusement les leçons de cette expérience pour nous en nourrir, nous, et pour faire un peu moins les mêmes erreurs. C'est pourquoi, d'une part, j'ai l'intention d'étendre à 3 exposés ce qui ne devait en être que 2, révolution russe, révolution allemande, dans lequel la part essentielle sera la révolution allemande, pour que nous comparions avec les problèmes actuels. Alors je verrai comment on répartira, si on en fera 14 en tout, si le calendrier le permet, si au contraire on modifiera autre chose. De toute façon, il faut comprendre que ce plan n'a pas un caractère de loi inébranlable, et qu'en fonction même des progrès que nous ferons ou que nous ne ferons pas, des questions qui seront posées, du fait que certains camarades diront « nous n'avons rien compris », et si c'est le cas, il faut à tout prix qu'ils le disent, et ça obligera à ce moment-là à revenir sur des choses déjà faites, on peut modifier ceci chaque fois et de la manière dont on pourra le juger utile. Est-ce que je suis toujours entendu dans le fond ? Qui ne m'entend pas ? Silence, ça sert à rien comme ça. Qui ne m'entend pas ? Bon, alors il y en a un demi qui ne m'entend pas dans le fond, eh bien il va tendre l'oreille. Il va tendre les deux oreilles, sans doute qu'il n'en avait ouvert qu'une. Bien, je disais donc que ça n'est pas quelque chose d'invariable et que cela peut et doit être modifié en fonction des besoins, mais de toute façon il y aura cela. Et deuxièmement, cela suppose que le livre de Brouet soit lu. Pour qu'il soit lu, il faut qu'il soit acheté. Je sais qu'il est fort cher, ça n'est pas le camarade Brouet qui en a fixé le prix, c'est l'éditeur. Les réclamations doivent être adressées à M. Lindon, directeur des éditions de Minuit. Ceci dit, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas acheter ce livre qui vaut 8000 balles environ, avec réduction, ou un peu plus que 8000 balles. Il y a par contre la possibilité, et elle devient alors une nécessité, qu'on en achète un par cercle. Et cet achat d'un par cercle peut alors devenir le noyau d'une bibliothèque de cercle dont la non-existence est un véritable scandale pour une organisation de jeunesse révolutionnaire dont au contraire l'une des activités devrait être de diffuser largement parmi les jeunes et pas d'ailleurs nécessairement seulement parmi les membres du cercle la littérature marxiste révolutionnaire, et d'utiliser même cela comme un moyen de propagande, comme l'occasion de réunir des cercles de ceci ou de cela, et bien d'autres choses. Cela pourrait donc être l'occasion de commencer, parce qu'encore une fois, j'estime, après y avoir passé une nuit et sacrifié mes copies, mais j'ai l'intention, bien entendu, en cette nuit, je n'ai fait que parcourir les 8 ou... Enfin, j'ai laissé d'ailleurs les 100 dernières pages, et j'en ai parcouru 800... Et encore, j'avais une certaine connaissance des événements avant, ce qui me permettait de jamais revenir en arrière, parce que les traits essentiels m'étaient connus. Vous y mettrez plus longtemps, moi j'y reviendrai aussi, mais il faut l'avoir. Donc, ça fait partie des tâches, à mon avis, qui doivent être en même temps des tâches qui rattachent cette école au cercle et aux structures normales de l'organisation AJS, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas ouverte à tous les jeunes, elle l'est, mais ceci est vrai, à vrai dire, de tout ce que fait l'AJS. L'AJS ne tient pas de réunion de cercle fermée, c'est seulement ses congrès où les délégués sont élus par des camarades en possession de leur carte et en règle de leur cotisation. Par contre, il y a des surprises dans la technologie. Ça n'est pas une surprise. Ah bon, c'est ça. Alors, il y avait le sabotage d'un individu suspect. Bon. Ou la brillante ignorance d'un intellectuel. Passons. Bon. Alors, effectivement, je continuerai plus facilement comme ça parce que ma voix commençait déjà à se voir. Donc, voilà l'une des questions que nous aurons à régler. Il y en aura beaucoup d'autres. Je voudrais insister sur un point d'abord qui est fondamental et qui n'a pas été suffisamment réglé pour mon goût au cours de la première session. C'est que, bien entendu, cette école présente l'aspect traditionnel qui permettrait aux gauchistes de développer selon leur goût du moment la relation enseignant-enseigné, laquelle, il ne faudrait pas oublier, n'est pas fondée sur les structures de classe de la société, mais est fondée sur le fait qu'il y a des types qui en savent un peu plus que d'autres, et que par conséquent, ils peuvent leur apprendre. Quelles que soient les techniques employées, cette situation on peut dire que c'est une relation qui prendra une importance 100 fois plus grande qu'aujourd'hui, précisément dans la société communiste, où toutes les relations qui existent dans cette société comme imposées par l'extérieur, telles que ceux qui relèvent de l'oppression par l'État ou par les supérieurs hiérarchiques dans la production ou dans l'administration, ou tels que ceux qui relèvent des rapports entre classes, de la division du travail, tout cela aura disparu, mais je suis prêt à parier pour le premier siècle de la société communiste un développement gigantesque de la relation enseignant-enseigné, parce qu'il n'y a pas le moindre doute que dans la société communiste, la formation, l'éducation au sens le plus large de la génération suivante deviendra peut-être la tâche centrale pour l'humanité, étant donné que c'est cette formation, cette éducation à partir de l'âge de la naissance même qui est de nature à influer d'une manière décisive sur l'avenir de l'humanité, d'une humanité libérée de la domination de classe. Nous n'en sommes pas là, mais il y aura quand même la relation enseignant-enseigné ici pour cette raison. Et d'autre part, et en plus, comme il y assiste, je crois ce soir, une centaine déjà ou un peu plus maintenant, à force d'arriver en retard, ça c'est aussi un problème. Je vous préviens que nous sommes assez satisfaits du fait que cette école est, paraît-il, la réunion de la JS qui commence le moins en retard, mais nous ne sommes pas satisfaits de cette situation qu'elle commence encore régulièrement en retard et que, pour ma part, je suis résolu à combattre cet état de choses. L'heure fixée est 7h moins le quart. Si les camarades ne peuvent pas être là à 7h moins le quart, ça n'est sûrement qu'une minorité, et nous ferons l'impossible pour commencer dans les 5 ou 10 minutes qui suivront l'heure, et ceux qui arriveront en retard, eh bien, ils arriveront en retard, et ils seront priés simplement de ne pas faire de bruit. L'avantage étant qu'on a plus de temps et qu'on termine moins tard, ce qui est assez clair. Bien, alors, ça, ceci entre parenthèses, donc il est évident que devant 100 à 150 personnes, il n'est même pas possible de mettre en place des organismes de dialogue qu'on pourrait mettre en place dans un petit groupe ou dans un cercle d'études de 10 personnes. On peut évidemment faire une séance de questions et d'intervention à la tribune après l'exposé. C'est toujours assez limité. Bien entendu, si à la séance suivante, des camarades arrivent et désirent intervenir de nouveau sur l'exposé précédent oralement, ils n'ont qu'à le faire savoir et on prendra les mesures d'organisation nécessaires. Par contre, les questions écrites ont pris une grande place, une tellement grande place que je n'ai pas encore réussi à répondre à toutes, et ce sera fait dans le bulletin de la semaine prochaine, je le pense. Mais il faut comprendre que des petites questions du genre pour quelle raison est-ce que l'État ouvrier ne dégénérerait plus comme il a dégénéré, point d'interrogation, ou est-ce que les forces productives croissent en URSS, ou un certain nombre de petites questions comme celle-là, il est difficile d'y répondre en 3 lignes et en 3 minutes. En tout cas, il y a peut-être des gens qui en sont capables, mais pas moi, ceux qui entraînent des difficultés. L'avantage de ce bulletin et des questions auxquelles il répondra, c'est qu'il vous dispensera de poser exactement les mêmes, même si vous n'êtes pas satisfait par la réponse, vous partirez de la réponse et vous direz ce qui ne vous satisfait pas. Mais il est essentiel que vous fassiez connaître à chaque occasion ce qui va ou ce qui ne va pas, ce que vous avez compris ou n'avez pas compris, ce que vous auriez voulu trouver et que vous ne trouvez pas, etc. Ça, je ne peux pas le deviner. Je ne peux sûrement pas le deviner. Je peux faire beaucoup de choses, mais pas ça. Enfin, ça, c'est là justement que le rôle des responsables de par cercle prendra une importance absolument majeure. Si l'école doit non pas rester trop, comme ça a été trop souvent le cas, en marge de la vie de la JS et du fonctionnement normal de l'organisation, quelque chose d'à côté, une activité en plus auquel participent certains, mais dont le cercle n'entend jamais parler, et dont le cercle d'ailleurs ne se préoccupe pas. Si ces responsables doivent fonctionner, l'un de leurs rôles fondamentaux est précisément d'avertir la direction de l'école de ce qui va, de ce qui ne va pas, et de réfléchir au problème. Par exemple, on ne peut pas se contenter de dire « l'exposé de la dernière fois était trop long », point final. Il faut dire « il était trop long et on aurait pu supprimer ceci ou cela ». Ou « il était trop long et on aurait peut-être rien pu supprimer, mais dans ce cas-là, il fallait en faire deux ou il fallait s'arranger autrement ». Tout ça, ce sont des positions permises. La seule position qui n'est pas permise, c'est de penser que ça ne va pas et de ne pas le dire. c'est de savoir que les camarades de son cercle n'ont rien compris et de ne pas le dire, c'est enfin de penser toutes sortes de choses et de les dire d'ailleurs, bien sûr, de les dire dans un tas d'endroits, dans les couloirs, dans les bistrots, quand on rencontre un copain dans le train, mais sûrement pas là où ça serait utile que ce soit dit, c'est-à-dire là où ça pourrait servir à quelque chose. Bon. Il faudrait que tu me passes de l'eau dans un verre, sinon je n'irai pas. Bon, alors, le premier exposé que j'avais fait la dernière fois avait le même but d'ailleurs que celui-ci, mais je vais le prendre un peu différemment pour la raison que je vais dire. Il avait pour but de montrer les sentiments d'indignation et de révolte que provoque le spectacle du monde actuel, tel qu'il est, en prenant un certain nombre d'exemples à partir de coupures de presse que j'avais. Je ne ferai pas ça cette fois-ci parce que j'avais invité les camarades à m'apporter des coupures de presse du même genre, en leur faisant remarquer qu'on en trouvait tous les jours dans n'importe quel journal pourvu qu'on veuille bien se donner la peine de le lire. Je vous en donnerai encore un exemple tout à l'heure. Mais je résumerai simplement sous une autre forme parce que ce jeu n'est drôle que si je joue à plusieurs, c'est-à-dire si vous aussi vous amenez des coupures dans le style « la réalité dépasse la fiction ». Et il y en a tous les jours dans les journaux des choses monstrueuses, incroyables, inouïes. Allez dans un grand marchand de journaux, regardez seulement les titres et vous verrez par exemple le grand Albert, hebdomadaire luxueux, organe de la sorcellerie. Par rapport à eux, l'ancien Planète, pour ceux qui l'ont connu, est un organe de haute tenue scientifique. On y explique que les savants sont des fumistes, que ceux qui savent vraiment sont persécutés et qu'on les a pas laissés parler, que les seuls gens qui guérissent les malades, ce sont des guérisseurs, et il y a de la publicité massive, illégale d'ailleurs, contraire à la loi. Publicité pour exercice illégal de la médecine, c'est un délit réprimé par le code pénal, mais le grand Albert, solidement fondé par un trust de la presse, est un organe qui ne craint pas ce genre de répression et peut-être une poursuite devant un tribunal l'arrangerait. Vous comprendrez alors pourquoi François a réagi en publiant une enquête qui n'est d'ailleurs pas dépourvue d'intérêt, d'une de ses rédactrices qui raconte comment, sans rien voir, elle est devenue voyante, et comment elle a exploité des clientes, et comment elle aurait pu gagner des millions, et beaucoup de millions, si elle avait continué dans cette voie. Ce n'est pas sans intérêt, je suis prêt néanmoins à parier que la conclusion laissera ouverte la possibilité que parmi beaucoup de charlatans, il y a quand même quelques vraies voyantes. Parce que vous savez que dans François, l'astrologie est quelque chose d'admis, au moins qui se discute entre gens de bonne compagnie, c'est peut-être vrai. Et on peut trouver toutes sortes de choses de gens et se demander ce que ça signifie. Et à ce moment-là, se donner la peine de découper un article et d'en faire l'analyse ne devrait pas dépasser les facultés non seulement de l'homme moyen, mais du militant AJS moyen, qui est par définition, ou devrait être, supérieur intellectuellement à l'homme moyen. En tout cas, il serait souhaitable qu'il le manifestât. Il est évident que chacun de vous a été amené soit à militer dans la JS pour ceux qui en sont membres, soit à être proche de ses idées au moins. Il est peu probable qu'assistent à cette école des camarades qui n'auraient aucun rapport avec les idées de la JS, parce qu'à ce moment-là, ils n'auraient aucune raison même d'en connaître l'existence, par un sentiment de révolte instinctive contre l'effroyable injustice, l'effroyable oppression, l'effroyable sauvagerie qui se manifeste sous toutes ses formes dans cette société. La dernière fois, j'avais commencé par une coupure de presse exposant comment 1 million de personnes ou plus étaient mortes en une semaine au Bengale, c'était avant le début de la guerre. Depuis, il en est mort beaucoup d'autres millions, et nous n'avons que le choix entre l'effroyable extermination auquel se sont livrées les troupes du dictateur militaire Yahya Khan, armé par Mao Tse-tung comme par l'impérialisme américain, soutenu, on peut dire, par tous les pays occidentaux, avec des pincettes d'ailleurs pour ceux qui n'avaient pas besoin de le soutenir directement, mais néanmoins soutenu, on n'a que le choix entre cet effroyable massacre et l'effroyable massacre de révolutionnaires auquel s'est livrée l'armée de la bourgeoisie indienne, exterminant notamment tous les cadres du mouvement nataliste, mouvement révolutionnaire fondé sur les paysans pauvres et plus ou moins pro-chinois. Je me demande comment sa pro-chinoiserie s'arrange du rôle de Mao Tse-Tung, mais sans doute n'ont-ils même pas la possibilité de savoir exactement ce qui se passe. On n'a que le choix. On n'a que le choix, et ces massacres, ces morts, n'ont que le caractère d'être un peu plus massif par rapport à ce qui se produit dans ce monde, faisant certains jours les grands titres des journaux, comme le Biafra, rappelez-vous, ça intéressait la France, et puis on n'en a plus parlé. Et beaucoup d'autres dont on ne parle jamais, et le fait que des centaines de millions d'hommes meurent à moitié de faim toute leur vie, et ont une durée de vie moyenne de 20, 25 ou 30 ans, alors qu'elle atteint maintenant 75 ans, je crois, en France, 70, 72, 75, je ne sais plus très bien. 75, non, ça doit être le cas en Suède. En France, on doit être un peu en dessous, de toute façon. En Suède et aux États-Unis, où maintenant elle plafonne. Mais de toute façon, donc, cette incroyable... Il n'y a rien de plus monstrueux, quand on veut bien la regarder d'un peu près, que la grande presse. La grande presse qui, au moment même où ces massacres ont lieu partout, au moment même où les 75 millions de réfugiés, il s'agit de les ramener, et la bourgeoisie indienne se prépare, parce qu'ils constituent une charge potentielle révolutionnaire intolérable, les 75 millions, non, les 15 ou 20 millions de réfugiés, qui représentent une charge potentielle révolutionnaire intolérable dans ses propres frontières, c'est-à-dire dans une situation déjà explosive, dans cette ville de Calcutta où il ne se passe pas de jour, où des bandes armées au service du grand patronat, membre du parti du Congrès, du pieux Gandhi, n'oublions pas l'homme de la non-violence que nous chantent toutes sortes de gauchistes à la manque, quand ils ne chantent pas purement et simplement Jésus, dont le retour aux États-Unis est la grande nouvelle de l'année qui fait à la fois l'enthousiasme de la grande bourgeoisie et du gauchisme en général. Parlez de Jésus aux gauchistes et vous allez les entendre bander, les voir bander plutôt. Parlez de Jésus aux gauchistes. L'autre jour, j'étais allé à une réunion organisée par monsieur le professeur Grothendieck, qui a découvert que de la science venait tout le mal. Lui, qui est en effet un grand savant, c'est une chose assez à la mode. Le mal vient de la science et non de la société. Et c'est pourquoi il a engagé la lutte contre la science en tant qu'institution, sur les positions les plus confuses et les plus hurluberlues qui soient. Monsieur le professeur Grothendieck siégeait au milieu d'une cour de jeunes gens et a préféré ne pas discuter avec moi, ce qui était évidemment son droit. Mais ce qui est certain, c'est que moi, il a rompu la discussion parce que je l'ai attaqué sur Jésus. Parce que dans son bulletin, il y avait le Christ, il y avait le christianisme, qui était une chose pas si mal que ça, comme Gandhi et d'autres braves gens. Gandhi est le père de la bourgeoisie indienne, le fondateur du parti du Congrès qui est actuellement au pouvoir. Il est directement responsable du massacre de millions d'Indiens qu'il a empêché de combattre contre l'impérialisme par les armes au nom de la non-violence, parce qu'il s'agissait d'assurer le passage du pouvoir lorsque l'impérialisme se retirerait à sa classe, la bourgeoisie. Ses meilleurs amis à cet homme qui n'avait rien et qui filait son rouet, c'étaient les grands propriétaires du textile de Calcutta, qui exploitent un prolétariat qui est probablement le plus misérable du monde. Calcutta est une ville où le choléra existe à l'état endémique, où des millions de gens, hommes, femmes, enfants, vivent toute leur vie dans la rue et dans un état d'hygiène tel que le développement du choléra à l'état continuel, qui est maintenu à l'état endémique simplement pour qu'il n'envahisse pas les maisons des riches, parce que les moyens de le contenir, la médecine moderne les a créés, et même les moyens de le supprimer sans la moindre difficulté, et le même choléra a envahi l'Europe l'été dernier. Le même choléra s'est propulsé irrésistiblement jusqu'en Espagne, jusqu'en France et jusqu'en Angleterre. Une autre chose qui est d'ailleurs du même ordre, on pourrait continuer dans le tableau de ce monde très loin, c'est que, et ceci à l'usage des gens qui prétendent que nous assistons à une grande croissance des forces productives à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le capitalisme est dans une certaine mesure au moins capable de maîtriser les problèmes. Eh bien, la plus grande ville du monde probablement, certainement, c'est-à-dire l'agglomération du Grand New York, En fait, c'est même plus ça, c'est une ville continue de Washington à Boston sur 800 km de distance. Mais si on se borne à ce qui est administrativement New York, cette ville est en même temps la plus sale du monde. La plus sale du monde. Le métro était le dernier cri de la modernité quand il a été construit, c'est-à-dire, il me semble, je ne sais plus si c'est en 1910 ou en 1920. Depuis, il est resté tel quel, absolument tel quel. C'est-à-dire qu'il est fréquent. Et le métro, ça signifie d'avoir des trajets de 30, 40, 50 km. C'est le métro à l'échelle de la grande ville. Et c'est le seul moyen de transport par lequel des millions de gens vont travailler tous les jours. Ce métro, il est fréquent qu'il tombe en panne sous un tunnel. Il y a 2 ans, il est mort quelques dizaines de personnes comme cela d'asphyxie, parce qu'il n'y a pas de système d'aération. Le système d'aération est resté au niveau de 1910, c'est-à-dire à un moment où il circulait 5 à 10 fois moins de trains, beaucoup moins chargés. Je pourrais continuer ainsi. Les ordures s'accumulent continuellement dans les rues, parce que la municipalité ne veut pas payer le prix élevé qu'exige à juste titre les boueux qui font un travail que personne ne veut faire. Bien entendu, ce travail pourrait être réglé par des moyens techniques tels que les gens qui débarrasseraient les ordures seraient des hommes de laboratoire en blouse blanche et immaculée. Toutes les conditions existent de la technique, tous les problèmes sont résolus, sauf à l'appliquer. La ville de New York est en déficit, et en déficit à une échelle telle qu'elle n'a pas la moindre chance dans le système actuel de cesser jamais d'être en déficit. Elle cessera d'être en déficit le jour où le socialisme la prendra en charge et décidera que les services publics sont gratuits et que la question n'est donc pas de savoir combien ils coûtent, mais de savoir que ce sont des services publics qui doivent être rendus au public dans une société civilisée digne de ce nom. Car on est en train de s'apercevoir dans je ne sais plus quelle autre ville, même dans le cadre du capitalisme, que finalement il serait beaucoup plus avantageux que le métro soit gratuit, ça coûterait moins cher. Et c'est vrai. La raison d'ailleurs pour laquelle on ne le fera pas de façon générale, c'est parce que le capitaliste n'osera pas licencier en masse des travailleurs pour lesquels il n'a par ailleurs plus d'emploi. Il est clair que dans un régime tant soit peu rationnel, ceci n'existerait pas. Ce n'est pas tout. Cette histoire de saleté de New York est liée au fait que les réserves d'eau, du fait que le capitalisme a exploité les ressources naturelles sans aucune planification et dans un désordre total, les réserves d'eau des grandes villes sont toutes insuffisantes. L'eau manque déjà dans beaucoup de très grandes villes, y compris à Paris, en été, dès qu'il y a un peu de sécheresse plusieurs heures par jour, et encore pas dans le centre de Paris parce que ça se verrait trop, mais moi j'habite dans une banlieue où il est fréquent qu'au mois d'août, l'eau soit coupée au moins 12 heures par jour. Et on peut dire que en cas de panne ou d'accident, les réserves d'eau de la grande ville, d'eau potable, pourraient être épuisées en 24 heures. Alors les ordures, les réserves d'eau limitées, tout cela, ça crée très simplement le tableau classique d'une épidémie de peste. Bien sûr, si une épidémie de peste éclatait aujourd'hui à New York, les moyens de la médecine moderne permettraient certainement de la juguler vite, très vite même. Il y aurait sans doute des morts, il y en aurait beaucoup moins, puisque même du choléra, un malade atteint, s'il est bien soigné aujourd'hui, a au moins 3 chances sur 4 de s'en sortir, alors que c'était une mort certaine, au moins 9 chances sur 10 il y a seulement un siècle, c'est vrai. Mais en tout cas, je suis un des romans de la série dite médicale du groupe d'écrivains populaires best-sellers qui collabore sous le nom de sous-auteur, décrit précisément cette peste de New York. Elle est précisément provoquée. Il y a de méchants maoïstes qui s'en mêlent à un moment, bien entendu, et qui essayent de provoquer une catastrophe. Mais en attendant, l'épidémie de peste est provoquée exactement dans les conditions que je viens de décrire, et cela leur tend au nez. Je ne dis pas que ça arrivera, je ne dis rien de ce genre, mais tant qu'il y a une chance sur 10, c'est une chose qui peut arriver. On peut continuer comme ça dans tous les domaines. Une société et un monde dans lequel partout sur cette planète, en ce moment où je parle, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, par milliers et par milliers, des gens meurent de faim. Vous pouvez parier sans la moindre hésitation qu'entre le moment où j'aurai commencé à parler et le moment où je terminerai, plusieurs dizaines de personnes, en particulier d'enfants, seront morts de faim ou de sous-alimentation sur cette planète. Vous pouvez être certain que plusieurs autres seront morts de morts violentes, tués par une des forces de répression qui y sont en vigueur. Vous pouvez être certain qu'en ce moment même, des milliers et des centaines de milliers sont torturés de la façon la plus atroce qui soit. Vous savez que d'autres, dans les asiles psychiatriques soviétiques, subissent, comme Grigorenko, le traitement forcé imposé par le KGB et par les médecins du KGB. Les armes mêmes créées par la science moderne, c'est-à-dire des produits chimiques à action mentale, servant à détruire leur fonctionnement mental s'ils le peuvent. Ils résistent. Un homme comme Grigorenko est lucide aujourd'hui, nous le savons. Il ne manque, non seulement il résiste, mais il parvient à faire passer à l'extérieur document après document, mais la chronique des événements, ce bulletin clandestin qui reproduit simplement des informations dont le livre Samizdat avait reproduit de longs articles, et vous voyez comment il est fait, continue à apparaître régulièrement, et on peut dire, tout indique au contraire que la production du Samizdat se développe. La publication en France du livre de Bukowski, qui vient de lui valoir la condamnation à 7 ans de prison et travaux forcés, plus 5 ans d'éloignement, la publication de ce livre avec l'introduction de Jean-Jacques Marie, j'espère que vous l'avez lu, sinon vous le lirez, en est la preuve. Mais en même temps, ces hommes souffrent dans les prisons, souffrent et beaucoup agonisent. Il y a d'ailleurs les aspects de l'incohérence vont beaucoup plus loin. Bien entendu, François titrait ce soir sur la plus belle fille du monde qui vient de divorcer et qui pleurait à chaudes larmes, et sur les héroïques flics qui viennent enfin de démasquer, grâce à une enquête inlassable poursuivie pendant Noël et le 1er janvier, jour et nuit, un maniaque qui s'attaquait à des enfants dans je ne sais plus quelle banlieue parisienne. Et si la presse bourgeoise parle de Bukowski, c'est pour des objectifs politiques bien précis, c'est-à-dire pour que ces gens fassent oublier leurs propres crimes. On peut même dire que le développement de la science et de la technique a créé en réalité des formes de mort de faim nouvelles qui n'existaient pas. Des recherches ont été poursuivies récemment en Amérique et ont expliqué pourquoi plutôt ce qu'on avait déjà constaté expérimentalement, à savoir que l'on meurt de faim plus vite si l'on possède un seul type de nourriture et rien d'autre que si l'on ne mange pas du tout. Si par exemple, et c'est le cas de nombreux pays dits sous-développés, si par exemple la nourriture de la population a pour base, par exemple, un légume, je ne trouve pas le terme exact botanique, peu importe, qui contient surtout du glucose comme des glucides, de l'amidon, etc. Eh bien dans ce cas-là, celui qui se nourrit uniquement avec cela a beaucoup de chances de mourir beaucoup plus vite s'il n'a pas de protéines du tout, si par exemple, et c'est surtout le cas pour les enfants qui sont privés de protéines complètement, c'est une maladie qui s'appelle le kwashiorkor, ils meurent beaucoup plus vite. Avec le kwashiorkor, un enfant en bas âge, un enfant de 2 ans, tombe dans un état, c'est un terme médical qu'on appelle marasme, c'est-à-dire que même si à ce moment on vient à son aide, il ne sera plus jamais un être humain normal, et meurt. Eh bien, la revue américaine Time avait publié il y a quelques années qu'on avait relevé 6 cas de kwashiorkor aux États-Unis. Aux États-Unis, dans le paradis capitaliste. Ce sont là quelques touches du tableau de ce monde. On pourrait en continuer beaucoup d'autres. On voit le mensonge s'étaler avec un cynisme qui est probablement sans précédent. Monsieur Pompidou vient de prodiguer ses vœux au tiers-monde et d'expliquer qu'il était temps qu'on le convienne davantage en aide aux pays sous-développés. Effectivement, la France vient en aide aux pays sous-développés. Elle est aujourd'hui le 3e marchand d'armes du monde. Le 3e marchand d'armes du monde, et elle vend essentiellement ses armes aux différents pays sous-développés que les impérialistes poussent à s'exterminer pour des intérêts qui ne sont pas des leurs, avec la complicité des classes dirigeantes. Et cela s'étale tranquillement sur le papier avec un cynisme bien tranquille. En même temps que l'une des conséquences, l'une des causes de l'aggravation actuellement extraordinairement rapide de la situation dans tous les pays arriérés, c'est le fait que la crise économique sur le marché mondial, la crise
le début de crise économique. Attention, nous ne sommes pas en ce moment, et nous n'allons pas être dans les deux prochains mois, certainement pas dans une crise, dans la crise économique fondamentale qui serait celle de 1929 multipliée par 2 ou 3. Non, nous n'en sommes pas là. Nous sommes en marche vers cela, c'est certain, mais les capitalistes sont loin d'avoir épuisé toute possibilité de manœuvrer. La question, toutefois, finalement, se réglant sur le terrain de la lutte des classes, c'est-à-dire sur le terrain de la capacité de la bourgeoisie ou non à imposer aux masses un abaissement massif de leurs conditions d'existence, un chômage 5 fois plus grand qu'aujourd'hui, où il commence néanmoins à préoccuper, ou plus exactement, où nos dirigeants bourgeois feignent de s'en préoccuper, la capacité de la bourgeoisie d'éviter la grande crise vers laquelle les contradictions objectives de son système la précipitent de nouveau, elle est étroitement liée à cela en dernière analyse. Nous ne sommes pourtant pas dedans, mais déjà le début qui existe a eu entre autres conséquences une baisse massive de la plupart des prix des matières premières. Or, les pays arriérés sont producteurs et vendeurs de matières premières, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre eux, ça fout entièrement leur budget en l'air. Par exemple, la baisse du cuivre sur le marché mondial signifie la condamnation du Chili extrêmement vite. Signifie en tout cas une situation économique 2 fois plus catastrophique pour le Chili depuis le discours de Nixon du 15 août. Et explique d'ailleurs beaucoup de développements qui se sont produits au Chili entre-temps et le fait que la bourgeoisie estime que maintenant on peut en finir avec Allende et qu'il faut même en finir vite parce que sinon la révolution va passer quand même. On pourrait continuer à énumérer d'autres exemples de mensonges, je vous invite à en chercher, ça n'est pas difficile. L'absurdité et l'incohérence s'étalent. Il est extrêmement important de savoir que la pauvreté n'est pas le fait seulement des pays arriérés, mais qu'il existe, officiellement reconnu aujourd'hui, dans les pays les plus avancés, aux États-Unis, en Suède même, le paradis du socialisme de M. Rocard, le dirigeant, le secrétaire général du PSU, pro-chrétien, n'oublions pas. En Suède même, existe cette pauvreté, c'est-à-dire qu'il existe là des groupes d'individus qui sont définitivement rejetés du circuit de l'économie moderne, qui ne peuvent jamais acheter les produits de l'industrie moderne, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de télévision d'ailleurs. Ils peuvent en avoir une qu'ils ont conservée d'un temps meilleur. La plupart n'en ont pas. Déjà il y a 10 ans, un livre resté fameux qui s'appelait « L'autre Amérique » et qui montrait qu'un Américain sur 4 est un pauvre du point de vue des critères américains, ce qui veut dire environ 3 000 ou un peu plus de 3 000 $ pour une famille de 4 personnes. Ça peut paraître beaucoup transcrit en argent français, en fait c'est très peu si l'on tient compte des prix américains, parce que ça veut dire que cette famille de 4 personnes ne peut ni voyager en avion, ni donner à ses enfants une éducation qui dépasse l'école primaire, et même l'école primaire, ils auront des écoles primaires au rabais, ni en général s'intégrer en quoi que ce soit à la fameuse société de consommation. L'aspect d'ailleurs le plus monstrueux de la stupidité ambiante, peut-être, c'est cela. C'est qu'on a toléré que toutes sortes de gens doctes, et aujourd'hui encore, nous disent « nous sommes dans une société scientifique ». Alors que le fait le plus marquant, c'est que dans la dernière période, les crédits attribués à la recherche scientifique sont en réduction massive dans le monde entier, et avant tout aux États-Unis. En France, la recherche est en liquidation, en Italie, elle est déjà liquidée, etc., etc. Et on a osé nous parler de société scientifique, alors qu'aucun pays n'a jamais consacré plus de 3% de son revenu national à la recherche, dont seulement moins d'un demi pour cent à ce qui compte et détermine tout le reste, c'est-à-dire la recherche fondamentale, et qu'aujourd'hui, ça n'est plus 3%, mais 2% ou moins encore. Et ces gens continuent à nous bavarder, à nous corner aux oreilles société scientifique, alors que les mêmes pays consacrent 15 ou 20% de leur revenu national ou davantage à l'armement, au budget militaire sous toutes ses formes. Donc, s'il fallait vraiment ne pas l'appeler société capitaliste, parce qu'au fond c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'ils veulent, s'il fallait ne pas l'appeler société capitaliste, alors on aurait pu l'appeler par exemple société militaire. Ça serait en tout cas beaucoup plus fondé sur la réalité que je viens de vous citer que société scientifique. Mais il continue à bavarder là-dessus. Et ça, ce qui était de consommation, comme si le mal des 99 centièmes des membres de cette société était qu'ils consomment trop et donc ils ne peuvent pas consommer assez pour satisfaire leurs besoins. Et nous constatons ici encore la complicité totale, croissante, du gauchisme et de la réaction. Aujourd'hui, l'idéologie bourgeoise et le gauchisme, on ne peut même plus dire qu'elles marchent la main dans la main, c'est la même chose. Contestataire, tout le monde emploie ce jargon, sauf nous. Tout le monde. Les contestataires s'étalent en première page du Monde, et ceux qui se souviennent de la préface de Samizdat se souviennent que M. Jacques Fauvet tenait même beaucoup à transformer en contestataires les communistes révolutionnaires de l'Union soviétique. Les contestataires, ils sont partout. On les dénonce dans l'Aurore, on les loue dans le Monde, dans la colonne consacrée, dans la rubrique consacrée à l'Église. On les voit partout. Je vous signale que, comme grande nouvelle, le Figaro de ce matin nous apprenait également que les évêques français, par la bouche de leur commission famille, mariage et je ne sais plus quoi, ça devrait être la commission famille, mariage et prostitution s'ils étaient logiques, mais ils n'ont pas mis prostitution. Donc la commission famille, mariage vient de nous annoncer que l'épiscopat français disait oui à la sexualité, mais non à l'érotisme. Ce qui, je suppose, mais on peut essayer, si vous connaissez un catholique, faites-vous expliquer par lui, ce qui, je suppose, veut dire que, du point de vue des évêques, on peut baiser, mais pourvu qu'on n'y prenne pas de plaisir. Alors, je vous laisse trouver une interprétation meilleure, si vous pouvez en trouver une, plus exactement, aller consulter un catholique de préférence de gauche, on ne voit que ceux-là d'ailleurs, les autres ne se montrent pas. Mais poursuivons. Mais contestataires, on l'est aussi à rouge. Nous, nous pensons que le prolétariat ne conteste pas le capitalisme, parce que contester, ça veut dire se situer sur le terrain d'une lutte d'idées. Et effectivement, les gauchistes se situent sur le terrain d'une lutte d'idées. C'est pourquoi les professeurs sont les flics. C'est pourquoi c'est l'enseignement qui doit être changé et non pas la société. C'est pourquoi c'est à l'université que ça serait, et ainsi de suite. On conteste une idée. Le prolétariat ne conteste pas l'idée du capitalisme, il combat le régime social capitaliste pour le renverser. Il combat pour son émancipation en tant que classe, il combat, il ne conteste pas. Mais constatez la communauté totale de langage du Vatican jusqu'à Rouge, en passant par tout le reste. On parle le même langage, et ce langage signifie quelque chose. Déjà, Marx, dans l'idéologie allemande, montrait comment le capitalisme avait remodelé le langage à ses ordres, faisant par exemple que le mot « commerce », qui avait commencé par vouloir dire « relation entre hommes », il a encore ce sens en français, surtout dans le langage classique au XVIIe siècle, le commerce qu'on entretient avec monsieur ou madame une telle dans leur salon. Et le commerce est devenu le commerce d'achat et paiement, achat et vente. Et le paiement au comptant, loi suprême pour César Birotteau, s'était transformé entre-temps en paiement à crédit et même en pas de paiement du tout et banqueroute frauduleuse. Si César Birotteau revenait aujourd'hui, il s'évanouirait d'horreur à voir comment se conduisent les négociants, les gros négociants actuels, parce que César Birotteau n'était pas le petit commerçant du coin, c'était un grand commerçant, et il n'empêche qu'il avait vendu tout ce qu'il possédait pour désintéresser ses créanciers, ça ne se fait plus. Mais enfin, de toute façon, le commerce entre gens de bonne compagnie s'est d'abord transformé en commerce de César Birotteau, puis a dégénéré dans les activités de M. Rivenry et de quelques autres, parce que il n'y a rien de plus marrant que de voir ce matin l'humanité annonçant avec une discrétion vraiment incroyable le passage prochain en jugement de M. Rivenry, et je vous conseille de lire l'article qui y est consacré, parce que c'est vraiment extraordinaire de voir qu'il est clair que maintenant M. Rivenry n'est même plus l'ancien député UDR, il n'est plus rien du tout. Il est simplement M. Rivenry à qui on va reprocher à propos de, je ne sais plus comment s'appelle cette foutue société, etc. Alors, lisez cet article dans l'Humanité ce matin. Et vous y voyez tout leur programme de soutien du gouvernement et de l'UDR. tout. C'est incroyable. Alors, les militants communistes s'en rendent compte. C'est pourquoi il n'est pas mauvais, si vous discutez avec eux, de lire l'humanité avec eux. C'est le meilleur exercice que vous pouvez faire pour vous et pour eux. Et ils vous montreront qu'ils le lisent mieux que vous. Parce que l'humanité, pour le militant actif du PC, c'est le bulletin intérieur du PC. C'est celui qui, c'est normal d'ailleurs, c'est le quotidien du parti qui lui dit le matin ce qu'il doit faire dans la journée. Alors il l'achète le matin, il le lit bien, et vous voulez discuter avec eux si vous n'avez pas la peine de le lire de la même façon que je voulais faire. Et vous allez leur expliquer, la démocratie avancée, c'est ci, c'est ça, la révolution prolétarienne, trop ci, mais c'est lui fou. Montrez-le lui dans son journal aujourd'hui, tout ça. Donc, la contestation. L'autogestion. Ah, l'autogestion. L'autogestion, ça c'est vraiment un truc formidable. Il paraît que maintenant même M. Guy Mollet s'est prononcé pour l'autogestion. Qui n'est pas pour l'autogestion? Ben nous. Nous. Le Parti communiste français aussi, d'ailleurs, pour des raisons précises. Ceci dit, nous considérons d'ailleurs comme positif qu'il ne le soit pas. Mais là, vous touchez du doigt une autre forme d'absurdité. Bien entendu, autogestion, direction par soi-même, mais c'est l'idéal même de la démocratie toujours. Mais dans la société communiste, effectivement, sa raison d'être et son but, c'est que les hommes se dirigent eux-mêmes, qu'ils ne soient plus dirigés par personne. Dans ces conditions, pourquoi est-ce qu'on n'est pas pour l'autogestion? Mais nous sommes pour. Nous sommes pour réaliser une société où l'ensemble des hommes se dirigera soi-même, dirigera soi-même son activité productive comme son activité non productive de loisir, qui sera d'ailleurs devenue l'essentiel. L'activité productive étant devenue essentiellement le fait de machines contrôlées par un petit nombre de contrôleurs. Mais peu importe, effectivement, c'est le but. C'est le but et en même temps, il se trouve que l'Église de gauche, la CFDT, le PSU sont pour l'autogestion, que M. Ernest Mandel, le camarade Mandel, a écrit un ouvrage entier consacré à l'autogestion, où d'ailleurs on trouve tout. On trouve les textes de Marx sur la Commune de Paris, on trouve des textes anarchistes, on trouve absolument n'importe quoi. Tout est mélangé. Ça, c'est l'autogestion est devenue la tarte à la crème du gauchisme et de la bourgeoisie intelligente. Elle s'appelle ailleurs participation. Oui? Écoutez, prenez François.
Vous pensez que je ne lis pas autre chose que François et que c'est mon inspiration principale. Je pense en tout cas que c'est une inspiration fort intéressante parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, François est un journal très politique et fait très politiquement, très 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 politiquement. Qu'à voir d'ailleurs les comptes rendus des manifestations de l'AJS, François, ça passe jamais, on ne sait pas pourquoi. Tandis qu'il y a d'autres journaux où on ne sait pas pourquoi, de temps en temps, il passe une vérité parce qu'il y avait un petit sous-fif de rédacteur qui a dit simplement les choses comme il les a vues et ça n'a pas été bien contrôlé. Donc François, ça n'arrive pas, ces choses-là. Alors François, l'éditorialiste de François, M. Jean Ferniaud, étroitement lié au gouvernement et un journaliste réactionnaire extrêmement intelligent, écrit un éditorial intitulé « Le partage du pouvoir ». Et il nous apprend qu'un gouvernement n'est pas seul à gouverner. Ce qui ne va pas en France, c'est que le pouvoir est partagé entre le gouvernement et les technocrates de toutes sortes, c'est-à-dire toutes sortes de PDG, d'ingénieurs sortis de Polytechnique, etc., qui s'entendent comme cul et chemise. De ce point de vue, d'ailleurs, la description des relations qui existent entre le personnel du haut appareil administratif d'État et le personnel des trusts, les PDG, les ingénieurs sortis dans la grotte des ponts et chaussées, tout ce que vous voudrez, est faite parfaitement. La conclusion étant évidemment que la classe ouvrière doit détruire l'appareil de l'État bourgeois et qu'elle ne peut pas s'en servir. Monsieur Ferniaud ne l'attire pas, mais si vous lisez la description, tout y est. Non, il tire une autre conclusion. Eh bien, c'est que Monsieur Chaman-Delmas a compris cela et c'est le mal. Il a compris que c'était mal et il s'est engagé dans la voie qu'il fallait. Il y a mis 2 ans, d'ailleurs, dit-il, il s'en est pas aperçu tout de suite parce qu'il avait hérité de De Gaulle de mauvaises habitudes. De Gaulle étant mort, on peut toujours lui mettre tout sur le dos. Et on s'y emploie beaucoup, d'ailleurs. Un de ces jours, on découvrira que c'est De Gaulle qui a introduit Rivenry à l'UDR, si ça va trop mal. Vous allez voir ça. Bon, mais alors, au bout de 2 ans, il a compris, et qu'est-ce qu'il faut faire? Cette solidarité sociologique, on parle un langage scientifique à François, comme dans Rouge, le même.
dans Rouge, on pense que Marx était sociologue. Ici, on parle de sociologie. Ailleurs, on parlera de psychosociologie de groupe ou de toutes sortes d'autres choses de genre. L'élément commun étant qu'on croit à l'existence de sciences humaines réellement scientifiques, c'est-à-dire qu'on possède du point de vue qui est celui de la bourgeoisie, qui étudie cette société comme un objet correspondant aux lois éternelles de toute société. Bon, cette solidarité sociologique, donc, entre dirigeants économiques, entre technocrates, comme il dit, et le personnel, les hauts fonctionnaires, pas les ministres, mais les hauts fonctionnaires qu'ils ont sous leurs ordres et qui n'exécutent pas bien leurs ordres, s'explique. Les dirigeants des affaires et de l'administration appartiennent au même milieu, ce qui signifie non pas un égal niveau de fortune, mais un égal niveau de culture et par conséquent d'identiques moyens d'expression et de semblables modes de pensée. Moyens d'expression, notez bien, ces gens-là parlent le même français qui n'est pas celui de Belleville. C'est d'ailleurs ce qui explique le plan de réforme de l'enseignement du français, où on n'apprendra plus le français écrit, mais le français parlé, de telle sorte qu'il n'y ait plus de langage commun, de telle sorte que les enfants de Belleville n'apprennent pas le français, instrument de culture qui leur permettra d'accéder aux plus grands écrivains, mais seulement un langage réduit à leurs horizons immédiats, plus exactement à ceux auxquels la bourgeoisie veut les réduire. Dans le sens étymologique du mot, ils se comprennent. Or, si l'on dresse la liste de ceux qui, en France, peuvent d'une façon ou d'une autre un pouvoir de exercent d'une façon ou d'une autre un pouvoir de fait, que ce pouvoir soit politique, économique ou spirituel, on constate que les seuls qui échappent à cette règle de la solidarité sociologique sont les syndicalistes. De ce fait, le syndicalisme représente, comme le Parlement, dans un tout autre ordre d'idées, un contrepoids à la technostructure. Voilà ce que M. Chaban-Delmas a compris ou senti. Et ce n'est pas par hasard que sa politique de concertation fut inspirée par M. Jacques Delors, un technocrate de style très original, puisqu'il vient non pas de la haute administration, non pas de la classe bourgeoise, mais du syndicalisme. Et voilà le programme de la participation, le programme de l'intégration des syndicats à l'État se trouve expliqué d'une manière parfaitement claire comme l'objectif du gouvernement, l'objectif fondamental pour sauver la bourgeoisie, non pas de la technocratie menaçante, évidemment, mais de la révolution prolétarienne. Vous voyez que c'est que en lisant François, on peut trouver toutes sortes de choses. Bien entendu, on pourrait tirer aussi beaucoup de choses de la lecture de l'article que consacre l'Humanité à la mise en route par Guichard du statut de l'apprentissage. Statut de l'apprentissage conforme à l'accord du 16 juillet 71 et à l'accord CGT-CNPF, le titre en première page dit 6 000 francs par mois seulement garantis pour un apprenti, et on pourrait croire que l'Humanité est contre. On dit ça, c'est un scandale, pense-t-on. Ben, on se reporte à la page 4 et on voit qu'évidemment ça n'est pas aussi bien que ça pouvait être, mais que les aspects progressifs, mais que, et cela par la plume du secrétaire du syndicat CGT de l'enseignement technique, du SNETP, alors que dans tout l'article vous ne voyez pas que l'objectif principal du statut de l'apprentissage, l'article dit que cela porte, ce qui va se faire va porter un certain remède aux graves défauts de l'enseignement technique public. Or, il s'agit de liquider l'enseignement technique public pour le mettre sous la coupe des patrons et de la curaille, par accord avec le CNPF. Certes, l'enseignement technique public des CET avait de très graves défauts, comme d'ailleurs tout l'enseignement public. Il était marqué par son caractère de classe, il était marqué par bien d'autres choses. Mais l'enseignement public représentait une conquête des masses, et non pas de la bourgeoisie, même si elle se réalisait dans le cadre du régime bourgeois, donc de l'État bourgeois. Mais l'un des traits saillants du développement actuel, c'est la destruction de l'enseignement public, et même la destruction en général de tout contrôle d'État imposé par la loi, dans le cadre de la loi, sur l'activité, par exemple, dans le bâtiment des entreprises. Tenez, en savez-vous une bien bonne ? La loi interdit l'usage du gaz dans les tours. tout doit être... Attendez, non, non, ne bougez pas, c'est tout à fait légal ce qui s'est passé à Nanterre, vous allez voir. La loi l'interdit. En effet, dans tous les cas où les maisons sont suffisamment hautes, la loi prévoit qu'il doit y avoir exclusivement des appareils électriques, précisément à cause du danger d'explosion. Seulement celle d'Argenteuil, j'ai appris ça l'autre jour d'un spécialiste, je l'avais lu dans aucun journal. En 10 minutes, parlant avec lui, j'ai appris d'ailleurs toute une série de choses absolument faramineuses. Je ne désespère pas que ça se traduise par une table ronde dans Zio ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a vraiment des révélations. Ben, la tour d'Argenteuil, elle avait 50 cm de moins que la hauteur. 50 cm de moins. Mais c'est incroyable, c'est monstrueux, c'est inouï que des choses comme ça soient possibles. Pourquoi est-ce qu'il y a 50 cm de moins? Parce que les techniciens, contrairement à ce que dit M. Fermiot, même si les techniciens ont un sentiment de solidarité de classe quand ils sont à un certain niveau, ou inspecteur des finances, ou ingénieur sorti dans la botte de Polytechnique, avec les cadres de gestion des grandes entreprises, ils ont en même temps une certaine conscience professionnelle. Parce que ceux d'entre eux qui étaient au service de l'État avaient réussi petit à petit, depuis 1946, grâce aussi au grand remue-ménage qui s'était produit au moment de la libération où les éléments les plus compromis avaient été éliminés, avaient réussi à mettre en place toute une série difficilement limités, modérés, etc., de systèmes de contrôle sur la construction, qui imposaient quand même certaines limites à l'avidité des entrepreneurs en les obligeant à observer certaines normes. Et parce que l'activité de l'UDR, en particulier depuis le ministère de Chalandon, a consisté à foutre tout ça en l'air, si bien que maintenant ces hauts techniciens, qui sont fonctionnaires, payés 500 000 francs par mois, le sont généralement à ne rien faire parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent quelque chose. Parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent le métier pour lequel ils ont été embauchés, c'est-à-dire par exemple de défendre le schéma directeur de la région parisienne, qui n'était pourtant pas grand chose du point de vue de la sauvegarde des intérêts des masses, mais que Chalandon a foutu en l'air en introduisant partout des dérogations au profit des constructeurs qui réalisent des profits absolument inouïs. Le résultat, m'a-t-il expliqué par exemple, c'est qu'actuellement les normes techniques honnêtes sont mieux observées dans des HLM que dans des maisons de luxe. Parce que les HLM, petit à petit, s'est mis en place, après toutes sortes de loupages, certaines normes minimum qui sont quand même respectées. De telle sorte que les chiottes dans des HLM sont mieux construites dans des maisons de luxe. Ça peut paraître inouï, mais voilà ce monde. Pour économiser, pour gagner quelques millions de plus sur des milliards. Il m'a raconté 20 choses de genre, et on peut en trouver partout, seulement il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher parce que chaque technicien, dans sa spécialité, sait toutes sortes de choses incroyables, sait l'incroyable gaspillage de forces productives qui se réalise tous les jours dans le cadre de cette société soi-disant hautement efficiente. Un gouvernement ouvrier, du jour au lendemain, sans avoir même le temps d'introduire aucun progrès technique, par le seul fait qu'il instaurait le contrôle des ouvriers sur la production s'il n'existait pas encore, ou si c'était instauré au cours même du combat, mais il récupérerait, il doublerait peut-être les forces productives de ce pays, du jour au lendemain, dans la nuit, simplement en supprimant une petite partie, parce qu'on ne pourrait pas tout supprimer d'un seul coup, du fantastique gaspillage qui se fait, ou en particulier dans les administrations des grands trusts, prétendument modèle d'efficacité. Il y a les trois quarts du personnel administratif sont parasitaires, à tel point que déjà il y a quelques années, un sociologue intelligent a énoncé la fameuse loi de Parkinson, selon laquelle quand il y a dans un bureau un employé qui accomplit un certain travail, au bout d'un certain temps, le mécanisme du système amène à en embaucher un autre qui va travailler à détruire ce que fait celui-là, puis un peu plus tard un troisième pour diriger les deux, constituer un service et arbitrer, à partir de quoi ça peut, le système peut d'ailleurs continuer à se développer, c'est comme ça que ça fonctionne, y compris à la General Motors, avec ses 800 000 employés et ses innombrables, ses je ne sais plus combien de milliards de dollars de chiffre d'affaires qui en font le premier trust du monde. Et vous trouvez ça partout, sous toutes les formes possibles et imaginables. Ce qu'a cité Stéphane Just dans son rapport, c'était je ne sais plus quoi, au comité national, ou au comité national de l'AJS, qui va paraître sous forme de brochure d'ici, disons, 2-3 semaines, pour ne pas être trop optimiste, enfin, disons que le 1er février, ça sera sûrement paru, hein.
Oui.
Et qui constituera la première brochure d'une série de formations de la JS qui sera suivie par d'autres dans des délais qu'il ne faut pas espérer trop courts, mais qui ne seront pas illimités. Je l'exprime dans un langage qui ne veut à la fois éveiller aucun espoir exagéré, mais qui peut éveiller des espoirs raisonnables. Mais il dit ceci, et c'est un exemple. Là, il le sait, lui, et ailleurs, c'est partout pareil. Le plan de la bourgeoisie, le plan Nora, était de réduire de 15 000 le nombre de travailleurs de la RATP d'ici 75. Bien. En attendant, depuis l'année dernière, ça a augmenté de 2 000. Pourquoi? Parce que les bourgeois ont peur des travailleurs et qu'ils décident et ils n'imposent pas. Ce qui est une cause supplémentaire de désorganisation et de gaspillage de forces productives, parce que des milliers d'employés de la RATP sont actuellement employés rigoureusement à ne rien faire, du matin au soir. Parce qu'il n'y a pas de travail pour eux, parce que la désorganisation s'étend, et parce que pendant ce temps-là, naturellement, le métro tombe de plus en plus souvent en panne sur la ligne de Sceaux, qui n'étant pas une ligne spectaculaire du régime. Bien entendu, comme pour toutes les grandes villes du monde, les lignes spectaculaires vont vers l'ouest, c'est-à-dire la zone d'habitation des riches, c'est pourquoi le RER s'est construit d'abord vers l'ouest tout à fait spectaculairement, et la ligne sud-nord, on s'en occupe pas quand on aura mieux à faire. Si vous êtes usager de la ligne de Sceaux comme moi, vous comprendrez votre douleur, et elle s'accroîtra au cours des prochaines années. Bon, on peut continuer ce spectacle de désorganisation, mais ajoutez tout cela, et ajoutez encore, je parlais de l'autogestion. Vous venez de voir réapparaître ici la participation, baptisée d'autre part concertation. Vous venez de voir, dans le programme du Parti communiste français, un document que, si l'on parvenait, par l'intermédiaire de la participation active des cercles, à constituer des commissions de travail dans cette école, je recommanderais que certaines parties du programme du Parti communiste français fassent l'objet d'un travail d'une commission déterminée. Il y a tout un chapitre que je vous recommande intitulé « Comment avoir une vraie participation ?» Une vraie, la bonne. Mais quelle est la place alors de l'autogestion et du langage et des gesticulations gauchistes? Nous trouvons le même langage dans le programme dit gauchiste adopté par le parti, enfin que la fraction Mitterrand du Parti socialiste se propose de faire adopter, et qui se heurte à la résistance des vieux socialistes, et qui, comme l'explique l'Information ouvrière de cette semaine, a entre autres choses pour but de participer à la destruction de l'enseignement laïque. Rien d'étonnant alors si l'adjoint de Mitterrand, M. Chevènement, défend son programme cette semaine dans un grand hebdomadaire socialiste qui s'appelle Témoignage chrétien. De façon courante, d'ailleurs, les représentants de la fraction Mitterrand, comme de la CFDT, qui, comme on sait, n'est plus du tout confessionnelle et n'a plus rien à voir avec la hiérarchie de l'Église, s'expriment, maire par exemple, s'exprime semaine après semaine dans Témoignage chrétien, organe qui, lui, n'est pas déconfessionnalisé, mais ça ne fait rien, il est de gauche. Ils ont ceci de commun que ces gens sont pour l'autogestion, c'est-à-dire pour la section syndicale d'entreprise. C'est-à-dire pour la section syndicale qui est la section du syndicat de l'entreprise, dépendant de l'entreprise, liée à l'entreprise et collaborant donc sur le terrain de l'entreprise avec le patron. C'est-à-dire la destruction de la classe ouvrière comme classe organisée, alors que la classe ouvrière n'est qu'une classe que comme collectivité globale, dépassant les corporations, dépassant les localités et finalement dépassant les nations, faute de quoi elle n'est qu'un groupe d'esclaves. Alors là, on les retrouve tous. Et quand on retrouve le langage de l'autogestion, y compris chez Rouge, pendant qu'en même temps un malhonnête personnage écrit dans l'éminente revue de gauche politique que la différence entre Marx et Lénine, c'est que Marx, lui, il était pour l'autogestion et que Lénine était contre, avec la procédée est simple. Marx et Engels ont dit à plusieurs reprises, on décrit la future société communiste développée comme étant le régime des producteurs associés à l'échelle nationale et mondiale de l'association des producteurs. Lénine, lui, il a dit en 1919-20, dans le cadre de l'Union soviétique arriérée et engagée dans la guerre civile avec un prolétariat encore inculte, nous sommes obligés de rétablir le système de la direction unique dans les entreprises, d'un directeur unique, parce que les ouvriers ne sont pas assez cultivés pour pouvoir diriger l'usine eux-mêmes. À peine savent-ils lire et encore. Alors évidemment, en mettant les deux l'un en face de l'autre, on démontre que Lénine était pour le centralisme et que Marx, qui parlait des producteurs associés en ayant dans l'idée ce qui pourrait se passer en Angleterre après quelques années de communisme, l'Angleterre pays en tête du monde à ce moment-là, il disait pas la même chose, bien sûr, il disait pas la même chose. Le fait que le même Marx se soit prononcé pour la dictature du prolétariat, le fait que dans sa dernière œuvre théorique en 1875, il ait remis l'accent sur cette question décisive de la dictature du prolétariat, entre autres choses, et sur la nécessité de commencer par détruire l'État bourgeois, ces gens qui sont contre le centralisme, chose curieuse, obligent toujours la destruction de l'État bourgeois, qui est pourtant la centralisation par excellence, une centralisation pas démocratique du tout, et que pourtant les marxistes eux seuls veulent détruire. Mais alors, vous retrouvez tout, là, tout. Autogestion, c'est-à-dire destruction de l'unité de la classe ouvrière, avec des discours sur le socialisme, tant qu'on voudra, mais qui n'est pas socialiste aujourd'hui? Mais qui n'est pas socialiste? Yahya Khan massacre au nom du socialisme. Mais Madame Gandhi, elle parle du socialisme, elle ne parle pas d'autre chose. Quant à Hitler, tout le monde sait qu'il était socialiste, national d'ailleurs, mais qui n'est pas national. Bon. Je vais vous donner un dernier exemple parce qu'il est drôle. J'ai fait peut-être trop de publicité à ce livre, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je veux parler du livre que je considère comme le plus comique de l'année, mais j'aurais dû préciser que ce n'est pas un comique volontaire, c'est-à-dire le livre de Weber contre l'AJS. On y lit à la page 27. Le concept de force destructive est totalement étranger à la théorie marxiste. Rien d'étonnant puisqu'il a expliqué un peu plus haut que c'était Pierre Lambert qui l'avait inventé à une date mal déterminée de 1966. Je dis à une date mal déterminée parce que quelques mois avant Lambert était contre et à une certaine date il était pour. On ne peut pas bien savoir entre les deux à quel moment ça lui a pris. On pourra lui demander à l'occasion. Donc, il est totalement étranger à la théorie marxiste. Et c'est une phrase extraordinaire. Écoutez bien. On ne le retrouve à l'état de concept, c'est-à-dire d'instrument théorique pour l'analyse, ni dans Marx, ni dans Lénine, ni dans Trotsky. Bien. Suit un rappel de note 11. Et en bas de page, on trouve 11, Marx, idéologie allemande. Après, le 11 se trouve après ni dans Marx, ni dans Lénine, ni dans Trotsky. Bien, dans la mesure où la pensée de Weber a été complètement révélée au vulgaire, je ne crois pas qu'elle le soit complètement dans ce cas, mais enfin on peut essayer de la percer, si cette phrase veut dire quelque chose, ça veut dire qu'en tout cas à l'état de concept, on ne trouve pas les forces productives, ni dans Marx, ni dans Lénine, ni dans Trotsky. Cela laisserait supposer soit qu'on les y trouve à l'état d'autre chose que de concept, mais c'est là que la pensée de Weber n'est pas complètement révélée, puisqu'il ne nous dit pas à l'état de quoi. Et en général, on se demande ce que ça pourrait être, sinon un concept, c'est-à-dire un instrument d'analyse, étant donné qu'une force destructive, ça n'est pas un objet concret. Un canon, c'est un objet concret. Une force destructive n'est pas plus un objet concret qu'une force productive. Ça ne peut donc être qu'une notion abstraite, donc un concept, donc un instrument d'analyse. Enfin, peut-être que Weber pense qu'on les y trouve à l'état d'autre chose, mais on ne le sait pas. Et la note, ni dans Trotsky, 11, Marx, idéologie allemande. Les lecteurs, non, je conseille, j'ai déjà conseillé, mais malheureusement, je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait parce que vous êtes d'une bonté avec les pablistes qui dépassent, qui est peut-être le fait que vous n'êtes pas très sûr de vos positions par rapport à eux, je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes vraiment trop bon. J'ai d'ailleurs recommandé de traiter un pabliste avec bonté, un membre honnête de la Ligue, et quand je dis honnête, je suis persuadé que 99 centièmes des œufs le sont, d'aller le trouver à deux ou trois et lui dire, écoute, viens, on va te payer à voir. Bon, ça ne veut pas dire que je vais être méchant avec ça. Et on lui paye effectivement à boire, on s'assied et on sort ce livre et on lui dit tout à fait honnêtement, écoute, voilà, qu'est-ce que ça veut dire à ton avis parce que nous on n'a pas compris. Alors toi quand même, c'est ton dirigeant, c'est le membre de ton bureau politique et tout, tu peux peut-être nous expliquer. Puis si tu ne peux pas nous expliquer, alors vas-y, alors il explique ou il n'explique pas, on a une discussion. Et s'il n'explique pas, on l'invite à se renseigner. Parce que la référence 11 Marx idéologie allemande, bon. Premièrement, ça peut vouloir dire que Marx, dans l'idéologie allemande, a dit que la notion de force destructive n'était pas dans sa théorie. Deuxièmement, ça peut vouloir dire qu'il a dit qu'elle n'était pas dans celle de Lénine ni Trotsky, ce qui est d'ailleurs pas vrai. Ou alors que Trotsky, dans l'idéologie allemande de Marx, a dit quelque chose de genre, parce que comme c'est lui qui est venu en dernier. Bon, mais ça n'est pas tout et ça n'est pas le plus drôle. Ça n'est pas le plus drôle. Parce qu'après tout, Marx, idéologie allemande, bon, ben, on peut aller trouver l'idéologie allemande. Bon. Alors, l'idéologie allemande est un livre bien fait dans l'édition française, et je vous signale d'ailleurs que c'est peut-être le seul cas où nous possédions en français une œuvre de Marx ou d'Engels dans une édition qui est supérieure aux éditions allemandes actuellement existantes, parce qu'il se trouve qu'on a retrouvé il y a quelques années seulement des pages supplémentaires manquantes du manuscrit de l'idéologie allemande et qu'elles ont été réintégrées à cette édition alors qu'elles ne sont pas encore aux éditions françaises. Quoi qu'il en soit, il y a à la fin un index des matières où il y a un tas de mots et où il y a notamment le mot « force productive » avec beaucoup de références. Alors, degré de développement des forces productives, etc., destruction des forces productives à la fin de l'Empire romain, ça, effectivement, destruction des forces productives à la fin de l'Empire romain, ça n'est pas le concept de force destructive, c'est un certain événement historique. Bien. Et puis, on trouve un peu plus loin, deviennent des forces destructives, page 68. Alors, on regarde, vous voyez, c'est pas mal. Et on lit ceci. La conception de l'histoire que nous venons de développer nous donne encore finalement les résultats suivants. 1. Dans le développement des forces productives, il arrive un stade où naissent des forces productives et des moyens de circulation. Notons que dans ce texte, Marx emploie le terme « moyen de circulation » plutôt que « moyen de production », ce qui montre que sa théorie économique était encore dans l'enfance, comme le dira Engels, quand il relira ce manuscrit de l'idéologie allemande après la mort de Marx, il le reprend dans les archives et il dira « ça montre surtout ce manuscrit à quel point nous étions ignorants en économie à cette époque-là ». Disons qu'Engels était bien méprisant pour l'idéologie allemande, il y a d'autres choses à trouver, mais enfin sans doute que lui, ça ne lui apprenait rien de plus. Ce qui ne veut pas dire qu'à nous, c'est exactement la même chose. Bon, enfin donc, je reprends. 1. Dans le développement des forces productives, il arrive un stade où naissent des forces productives et des moyens de circulation qui ne peuvent être que néfastes dans le cadre des rapports existants et ne sont plus des forces productives mais des forces destructrices. Entre parenthèses, le machinisme et l'argent. Et, fait lié au précédent, il naît une classe qui supporte toutes les charges de la société sans jouir de ses avantages, etc., etc. Autrement dit, cette tendance à la transformation des forces productives en forces destructrices, qui apparaissent ici, si Weber peut démontrer que ce n'est pas un concept, je ne vois pas pourquoi ne sont plus des forces productives mais des forces destructrices, pourquoi les forces productives seraient là-dedans un concept et pas les forces destructrices. Encore une fois, c'est ce qu'il faut demander au gars après l'avoir repayé à boire, c'est d'expliquer ça. Faut pas lésiner dans l'activité militante, faut savoir engager des dépenses. Bon. Enfin, s'il ne veut pas boire, il peut au moins expliquer, quoi. Et donc, une notion générale chez Marx de la société capitaliste. Alors, encore que Weber dise, ça ne voulait pas dire du tout ce que vous dites. La preuve, c'est que Marx voit cette tendance dans le capitalisme dès le début. La preuve, c'est que, bon, ça, ce serait une discussion. Mais ça, ce que je viens de vous lire, avec la note, la référence à l'idéologie allemande, où il sait parfaitement que Marx dit autre chose, en tout cas. Pas forcément le contraire, encore une fois, à partir de là, on peut encore discuter, ça je l'admets, je ne vais pas discuter maintenant. En tout cas, là, vous voyez d'ailleurs la différence. Mandel, c'est une chose. Je ne suis pas suspect de le porter extrêmement haut, c'est quand même autre chose. Ce type, il défend des idées fausses, mais il défend des idées. Mais quand vous descendez au niveau de Weber, vous avez ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment est-ce qu'on peut tolérer une chose pareille dans son organisation? Non, mais c'est incroyable! Que Lambert ait peut-être finalement tiré ses idées géniales de 66 d'idéologie allemande, c'est au moins une question qu'on pourrait poser, et enfin, je pense pas qu'il serait offensé si on le supposait. Mais ce qu'il a expliqué, c'est des positions justes ou fausses, ça se discute, du point de vue, tout se discute, mais ça, c'est que ce sont des idées, mais ça, avec la référence Marx-idéologie allemande en bas de page, où on peut croire que dans l'idéologie, ça n'a d'ailleurs aucun sens, puisqu'on ne trouve pas cette notion chez Marx, comment peut-on donner une référence? Une référence où Marx dirait, chez moi, on ne trouve pas cette notion. Bon. Or, en fait, Weber sait parfaitement à cet endroit-là qu'on y trouve, parce que, ou alors, je veux bien supposer qu'il n'est pas très malin, mais il est quand même capable de faire ce que je viens de faire, de regarder l'index des choses, et de se reporter à la page indiquée, il y a encore une autre référence du même genre. Bon, alors. Et il écrit ça. Mais comment est-ce qu'on peut, dans une question qui se prétend révolutionnaire, qui se prétend quoi que ce soit, se foutre de ses propres membres de cette façon? Ils n'iront pas voir dans l'idéologie allemande ce qu'il faut penser. Bon, alors, des choses comme ça, mais c'est le même procédé d'absurdité, sauf que Jean Pernaut, lui, est incomparablement plus cohérent et logique, sauf que la CFDT sait très bien ce qu'elle fait, sauf que Weber sait-il ce qu'il fait, ça peut discuter, mais c'est pas tellement important, mais ça... Et dans ce livre, je pourrais vous citer 20 trucs comme ça. Il est expliqué, par exemple, que nous étions en désaccord avec le port et l'ORA, nous, au CI, mais que nous avons décidé de les soutenir lorsque la Ligue a eu récolté 5 millions de francs pour le groupe de Moscoso. Bon, mais moi, quand j'ai lu ça, mais j'ai relu 4 fois, je me dis, c'est pas possible, il y a une faute d'impression, il y a quelque chose, enfin, sans compter que c'est par ce document que j'ai appris qu'ils avaient fait le geste louable et héroïque de recueillir 5 millions pour Moscoso. Enfin, même si je l'avais su, ça ne m'aurait pas empêché de dormir. Ce type peut concevoir qu'il y ait des gens qui fassent la politique comme ça, faut croire que lui-même il le fait. C'est. Bon, il y en a 20 comme ça, 20. 20. Et plus de 20 d'ailleurs, les contradictions. Bon, alors, la conclusion de tout ça, elle est évidente du point de vue de l'exposé que je fais. On pourrait continuer, d'ailleurs, l'offensive générale de l'obscurantisme, on pourrait continuer en voyant découvrir que M. Louis Pauwels, l'homme qui a lancé Planète et le matin des magiciens, c'est-à-dire l'obscurantisme sous une forme prétendue scientifique, le fait que c'est pas la science qui sait, ce sont les grands initiés, la science secrète, et le fait surtout, toujours, partout, que l'humanité n'a rien trouvé elle-même, que les connaissances qu'elle a ont été apportées par les grands galactiques. Dieu est très démonétisé aujourd'hui, alors personne n'y croit plus. Mais c'était des grands galactiques qui sont descendus sur Terre il y a 50 000 ans, qui ont fondé une civilisation supérieure et qui ont mis en route l'humanité à l'état de singe à cette époque, où il y a 500 000 ans, ça ils sont pas chiens. Voyez les statues de l'île de Pâques, voyez je sais pas quoi, ils ont toujours des arguments de ce genre. Dès qu'il y a quelque chose qu'on a trouvé quelque part et dont on ne sait pas immédiatement ce que c'est et ce que ça veut dire, eh bien c'était ça. Ça prouve bien que les savants ne savent rien puisqu'ils ne savent pas ce que c'est. Ça prouve bien qu'ils ne veulent pas reconnaître que ce sont les habitants de Sirius qui sont descendus il y a 100 000 ans et qui ont apporté ça. Bon. Monsieur Louis Pauwels est l'auteur maintenant d'un livre qui explique aux gens qu'ils sont heureux et qu'il faut vraiment être un petit con de contestataire gauchiste pour ne pas être heureux dans ce monde. Bien sûr, la lettre n'est pas adressée aux habitants du Bengale, etc. Elle n'est pas adressée aux 1 million de vieux qui, en France, meurent lentement de faim s'ils ne sont pas soutenus par leur famille. Elle n'est pas adressée aux jeunes chômeurs, elle n'est pas adressée aux prisonniers dans les prisons. On est en train de découvrir que les prisonniers de droit commun sont beaucoup plus maltraités aujourd'hui qu'au moment où le système pénitentiaire actuel français a été fondé, constituant à l'époque l'avant-garde de tout ce qu'il y avait à cette époque par Napoléon Ier. Depuis, il n'a pas changé, plus exactement, depuis, il a dégénéré. Il a dégénéré parce que la prison a pris un caractère massif qui n'était pas le cas, et emprisonne de plus en plus, pour des raisons de décomposition sociale, des couches entières de la population, en particulier des jeunes. Bon, je vois les camarades qui s'en vont, il n'a jamais été dit quand même que l'école se terminait à 8h30. Bon, alors j'admets une fois ou l'autre, mais il ne faudrait pas que ça devienne un principe pour les camarades qui participent, parce que ça ne facilite pas les choses, puis il y a rien de plus démoralisant que de parler, de voir les mecs qui s'en vont, on se dit, on les a tellement rasés déjà. Bon, la conclusion de tout ceci, c'est d'abord... Vous êtes venu au militantisme, ou à la sympathie au militantisme au moins, s'il y a là des camarades qui ne sont pas membres d'organisation, par des voies très diverses. Certains seront passés par la JC ou par une organisation quelconque, d'autres seront passés par aucune organisation, mais en général par des expériences de révolte contre cette société. Des expériences qui conduisent à la révolte et à l'envie de la changer. Certainement pas par envie de venir vous asseoir sur les bancs d'une école, fût-elle l'école de la JS. Ça, je crois pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui aient commencé à être intéressés par la politique par le sentiment de désirer apprendre en soi. Ça peut arriver, tout arrive, mais enfin, ça serait assez étonnant. Au contraire, la réaction la plus normale d'un jeune qui en arrive là, qui voit à quel point cette société ferme toutes les portes, à quel point elle insulte les jeunes, qui voit comment les flics impunément peuvent tuer, torturer, bâtonner, faire n'importe quoi, ceci même en France. Alors qu'est-ce qui peut se passer en Grèce ou au Brésil, ou dans les asiles psychiatriques du KGB, ou en Asie centrale, ou en Afrique centrale? Qui voit tout cela, la première réaction, c'est il faut foutre tout ça en l'air. Le gauchiste puise sa force, sa faiblesse, c'est de n'être finalement qu'une forme de l'idéologie bourgeoise, et qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus évident, comme je l'ai esquissé tout à l'heure. Mais sa force, c'est évidemment que ce sentiment de révolte instinctif pousse les jeunes à vouloir agir tout de suite, faire n'importe quoi. C'est-à-dire ou bien prendre des bombes ou des flingues et descendre des commissaires de police dans les commissariats, ou bien encore quitter cette société d'une façon quelconque, c'est-à-dire se regrouper en communautés comme il en existe actuellement, qui ont d'ailleurs un caractère particulièrement scandaleux, parce que ces communautés sont financièrement entretenues par le fait, souvent, que chacun de leurs membres va travailler un certain temps dans un métier où il gagne pas mal d'argent, puis amène ensuite son argent. À tour de rôle, ils font ça, ce qui est évidemment, prétendre qu'on va faire une société comme ça, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, ça. Les anciens utopistes, ils étaient au moins plus sérieux que ça. Bien que leur communauté faisait faillite aussi bien que celle-là. Il est vrai qu'elle n'avait pas l'avantage d'être fondée sur la sexualité par groupe ou sur d'autres idées progressistes de cette espèce. Progressistes, contrairement à ce que croient naïvement ces jeunes, on ne les a vraiment pas attendus pour inventer ça. Et tout, dans ce domaine, je crois, tout sauf l'homme libre dans un monde libre a été fait. Et pour cause, parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent d'homme libre dans un monde libre. Enfin, de toute façon, communauté, drogue, évasion de toutes sortes, ou bien le combat organisé contre une société dont la racine, c'est la propriété privée des moyens de production. C'est incomparablement plus difficile, parce que la révolte spontanée ne pousse pas du tout à cela. Cela exige, entre autres choses, de revenir s'asseoir sur les bancs d'une école et de se mettre à apprendre, à étudier et à lire. L'expérience montre que le militant de la JS moyen, il fait n'importe quoi mieux que de lire, si ce n'est d'écrire, parce que ça, le militant de la JS moyen ne sait pas écrire, c'est bien connu, il y a qu'à lui demander un rapport, une lettre ou quelque chose. C'est une calomnie, camarade. Bon, on verra bientôt. On verra, je suis toujours prêt à ce qu'on me démontre que j'ai tort, à condition que la démonstration soit fondée sur l'expérience et non pas sur des affirmations. J'écrirai ceci ou cela est une chose qui pour moi entre par une oreille et sort par l'autre, particulièrement quand il s'agit d'articles pour la vérité, sauf que ça prend alors la forme, quel jour tu le remets. Bon, alors, si ce jour-là tu le remets, je dirais tu as écrit. Mais jusque-là, je te dis rien. Bon, je ne suis persuadé que les camarades présents sont exceptés. Je dis quand même que la lecture n'est pas exactement l'activité la plus normale dans la jeunesse aujourd'hui, et par conséquent aussi parmi les jeunes qui sont là. Pourtant, il faut faire ça. Ou le faut-il ? Le faut-il, c'est la question. Au cours des deux et trois dernières années, toutes les tentatives de spontanéisme, de révolte, ont été largement expérimentées et se sont terminées par une faillite et par une décomposition sans précédent, la dernière étant celle du maoïsme en France, après toute une série d'autres. Et bien entendu, ces idéologies sont présentes, pour cette raison qu'elles sont véhiculées d'abord par les organes bourgeois de gauche, d'abord dans le Nouvel Observateur et toute une série d'organes de genre, politiques d'aujourd'hui, etc., et Rouge, parce que Rouge, tout en ayant rompu organiquement le lien avec les gauchistes qu'ils avaient en mai 68, et les ayant dénoncés, ne peut pas rompre idéologiquement. Il ne le peut pas, il ne le fait pas, il continue à parler de contestation et d'autogestion, et de beaucoup d'autres choses de genre. C'est plus difficile d'entreprendre l'étude du marxisme, le faut-il ? C'est précisément la première discussion qu'on doit avoir. Elle n'est pas nouvelle, elle se situe au début même du mouvement ouvrier fondé sur le socialisme scientifique. Tout à fait au début, cette discussion s'est engagée. Et elle ne s'est pas engagée entre étudiants contestataires et étudiants marxistes, elle s'est engagée entre militants ouvriers révolutionnaires d'une classe incontestable. Lorsque Marx et Engels sont parvenus à la conclusion que tous leurs espoirs, ils avaient commencé exactement comme nous tous, Ils avaient commencé par lutter pour changer le monde par la voie des idées et de la critique des idées. Et Marx et Engels y avaient cru autant que les autres, et ils s'y entendaient admirablement d'ailleurs, mieux que beaucoup d'autres. Ils avaient cru, autrement dit, ils avaient voulu faire la révolution dans la philosophie. Puis, ils ont constaté que, selon l'expression fameuse, la philosophie ne pourrait s'accomplir que par la révolution prolétarienne, et que aux armes de la critique devaient, les armes de la critique devaient céder la place à la critique des armes. C'est-à-dire que, et à ce moment, Marx, démocrate bourgeois qui venait de diriger pendant 5 mois le plus grand quotidien démocratique d'Allemagne occidentale, qui d'ailleurs avait été supprimé par la censure, est parti pour la France pour à la fois y fonder une revue pour voir plus clair dans ses idées et surtout pour étudier le mouvement ouvrier qui était beaucoup plus développé en France sous forme de mouvement socialiste et prendre contact avec les différents groupes de socialistes et de communistes qui pouvaient exister en France, ce qu'il a fait. Après quoi, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'Engels l'a retrouvé et qu'ils ont constaté leur accord. Puis en 1845, ils ont rédigé, le travail a duré jusqu'au premier mois de 1846, précisément ce livre, L'idéologie allemande, qu'ils essayèrent longuement de faire éditer. Ils n'y arrivèrent pas à l'époque, il fut abandonné, selon la formule bien connue et célèbre, à la critique rongeuse des souris. Et il faut d'ailleurs louer les souris d'avoir eu une critique rongeuse extrêmement modérée, puisque finalement il n'y a que quelques passages et quelques pages de l'idéologie allemande qui sont tombées victimes de cette critique rongeuse, et le reste a été publié en 1932. Et nous pouvons maintenant juger, ce qui n'était pas possible avant, que ce document fondamental est le premier document dans lequel Marx et Engels arrivent à la conclusion que la révolution totale et humaine qu'ils préconisaient jusque-là, celle qui libérera complètement l'homme de toutes les oppressions et de toutes les aliénations, elle est subordonnée à la lutte du prolétariat en tant que classe pour son émancipation, pour la conquête du pouvoir politique, pour la destruction du mode de production fondé sur la propriété privée des moyens de production, même s'ils les appellent encore à ce moment-là moyens de circulation, peu importe. Dès qu'ils arrivent à cette conclusion au cours de cette année-là, ils arrivent en même temps à la conclusion que le prolétariat ne se constitue comme classe que par l'organisation, que la lutte pour le triomphe de la théorie correcte scientifique qu'ils viennent de fonder ne peut se mener que dans le cadre d'une organisation où se mèneront en même temps la discussion et l'action, la discussion théorique à partir des problèmes posés par l'action politique et inversement, et c'est la fondation des comités de correspondance communiste qui a lieu au début, organisation clandestine par nécessité, qui est fondée à Bruxelles au début de l'année 1946. 3 mois après, il me semble que c'est dans la nuit du 31 mars au 1er avril, c'était une date célèbre, pour la raison que vous allez voir, se produit au comité de correspondance communiste une discussion qui dure toute la nuit, centrée entre Marx et Wendling, avec Marx appuyé par ses collaborateurs de l'époque, Engels et surtout d'autres comme Wilhelm Wolff, d'autres qui étaient là, dont le fameux Gigot, archiviste de Bruxelles, qui était un des éléments les plus actifs à cette époque, c'est-à-dire qu'on a, on a retrouvé depuis un tas de circulaires signés Gigot, et ce qui est d'ailleurs remarquable, c'est qu'on sait ça partout, sauf à Bruxelles. J'ai eu l'occasion de le constater récemment, la bourgeoisie belge ne semble pas être particulièrement fière du développement des comités de correspondance communistes et du fait que la première organisation marxiste de l'histoire a été fondée à Bruxelles. Ils ont tort, mais je ne désespère pas de les convaincre de changer ça. En attendant, vous pouvez toujours chercher les plaques là où Marx a habité pendant 3 ans à Bruxelles, vous n'en trouverez pas, alors qu'en Angleterre, vous pourriez retrouver. Bon, de toute façon, au cours de cette nuit, donc, se déroule une discussion qui porte sur les questions suivantes. Qui est Weichling? Weichling, c'est pas Cohn-Bendit, faut pas confondre. Est-ce que c'est un partisan de Weichling ou un adversaire qui... Pourtant, j'étais en train de dire du bien de Weichling. Bon. Alors, voilà, tu vois. Demandez et vous serez exaucé. Le mystère des micros m'a toujours plongé dans des abîmes de stupéfaction. presque aussi grand que celui de la très sainte Trinité et de la double nature du Christ dans le dogme du Concile de Nicée. Lequel d'ailleurs avait une signification de classe bien précise, à savoir l'adaptation, le dernier stade de l'adaptation en 311 ou 330, pardon, de la religion catholique aux besoins et aux nécessités politiques et sociales de l'Empire romain. C'est depuis que cette entreprise de guerre civile des riches contre les pauvres, qui est maintenant à 18 siècles derrière elle d'expérience, a continué à fonctionner avec aujourd'hui encore le succès que vous pouvez constater à la CFDT, au PSU, etc., et maintenant dans la fraction bourgeoise Mitterrand du Parti Socialiste. Bon, Weitling était le fondateur d'un groupe d'artisans communistes, lui-même tailleur de profession, et le poète Heine, qu'il a rencontré vers cette époque, avait été très frappé qu'il se frottait continuellement les genoux, et il avait d'abord supposé que c'était quelque chose qui tenait à son métier de tailleur, mais pas du tout. Il avait simplement, pendant ses 4 ans de prison, été tellement longtemps au fer qu'il en avait conservé une démangeaison au genou, et qu'il devait le frotter continuellement pour pouvoir la supporter. D'ailleurs, Heine a été révulsé, qui était très délicat, a été révulsé par cette histoire. Malheureusement, aujourd'hui, il pourrait trouver beaucoup de choses de genre. Quoi qu'il en soit, ceci est pour vous montrer que Weitling n'était pas un révolutionnaire des histrions du type de Kohn-Bendit. Il n'a jamais fait fortune. C'était un artisan très hautement qualifié, un type d'une intelligence brillante, l'auteur d'un certain nombre de brochures dont la plus importante est le sommet du communisme utopique. C'est là que se trouve la phrase fameuse écrite en 1842, au moment où les ouvriers brisaient encore les machines qui leur faisaient perdre leur emploi. Et Weitling écrit: les machines sont complètement innocentes, elles feront le bonheur de l'humanité quand celle-ci jouira des bienfaits de la propriété collective. C'est pour vous dire que c'était vraiment pas n'importe qui d'avoir trouvé ça tout seul. Et tout seul. Il était beaucoup plus avancé que tous les autres de l'époque, que Proudhon et bien d'autres. Il avait construit une organisation clandestine, selon le style des organisations clandestines de l'époque, société secrète, où on jurait d'exterminer les traîtres et bien d'autres choses de genre. On les exterminait d'ailleurs rarement, et ce genre de choses favorisait généralement la trahison, mais ça c'est autre chose. Mais de toute façon, une organisation fondée sur un catéchisme communiste qui mettait la libération de l'humanité comme condition la propriété commune des biens. Quand il arrive à Bruxelles, le mouvement ouvrier moderne avait commencé à se développer, en particulier en Angleterre, sous la forme d'organisation de masse, à caractère mi-syndical, mi-politique, le chartisme. En France même, le développement était rapide et les utopies de Weitling étaient de plus en plus dépassées. Il se sentait déphasé et il l'était. La discussion porte sur la question suivante. Nous en possédons un récit direct par un russe, ce qui prouve que les comités de correspondance, bien que clandestins, n'étaient pas secrets, n'étaient pas très fermés et très structurés, puisque ce russe était un de ces grands seigneurs russes qui venaient faire leur éducation à l'époque à l'ouest. Ils étaient extraordinairement libéraux tant qu'ils étaient à l'ouest. Après quoi, ils épuisaient leur libéralisme et ils rentraient chez eux où ils vivaient tranquillement de l'exploitation de leurs terres. Ça s'est produit des milliers de fois. Et d'ailleurs, Marx a eu quelques désillusions à ce sujet, mais à ce moment-là, il avait encore des illusions. Donc, ce russe, Anenikov, a assisté à la séance et dans ses mémoires, 30 ans après, il l'a raconté. Marx se jette immédiatement sur Weitling. Pour compléter l'histoire, il faut dire que Weitling crevait de faim et que Marx, qui n'avait pas un rond, par différents moyens, l'aidait à vivre et l'a aidé à vivre même après leur rupture et au moment où Weitling le couvrait d'injures. Ça, on ne le sait pas en général. Les imbéciles qui parlent de Marx au cœur sec, égoïste, et pensant qu'a assuré sa domination idéologique, les imbéciles, pas tout à fait gratuits, ignorent en général ce genre de détails historiques qui est pourtant attesté par des déclarations d'adversaires de Marx à l'époque qui disent « il est quand même bien bon, l'autre te traite de toutes les injures, et s'il a pu partir finalement et pas crever de faim, c'est lui qui le doit ». Sans compter que Marx n'avait pas un rond dans toute cette époque, et déjà 2 enfants, il me semble. mais enfin, de toute façon, il accroche Weifling et lui dit, est-ce que vous allez continuer maintenant, est-ce que votre programme est toujours le même, de rassembler des travailleurs pour les amener à se soulever, à perdre leur travail, à perdre tout gagne-pain pour eux et leur famille, et à se faire massacrer par la réaction, est-ce que vous allez... De toute façon, il accroche Weifling et lui dit, est-ce que vous allez continuer maintenant, est-ce que votre programme est toujours le même, de rassembler des travailleurs pour les amener à se soulever, à perdre leur travail, à perdre tout gagne-pain pour eux et leur famille, et à se faire massacrer par la réaction, est-ce que vous allez commencer à faire ça? Alors Weifling commence à se défendre, il explique, ce qu'il faut c'est une organisation solide, dure, forte, dévouée, disciplinée, tout ce qu'il avait fait toujours. Et Marx lui dit non, il s'agit d'étudier les conditions réelles des luttes de la classe ouvrière pour en déduire une tactique correcte, il s'agit d'étudier, d'apprendre. Et à la fin, Weifling ne se contient plus, tous ses arguments, c'était un type qui avait l'habitude d'être le chef partout où il était, il avait beaucoup de prestige, d'autorité, il parlait bien, et sur les ouvriers illettrés, ou même sachant lire, ayant appris à lire avec beaucoup de peine, comme lui-même, par leur propre effort, sur les artisans, il avait un prestige immense, parce qu'il leur donnait l'impression d'être un puits de connaissances, de culture. Vis-à-vis de Marx, ça n'était évidemment plus qu'un petit garçon. Marx était arrivé à l'élaboration de sa propre conception à travers une masse de travail au cours des 3 années précédentes, qui dépasse d'ailleurs l'imagination. C'est l'époque où Ruge, qui allait rompre avec lui, dit... Il ne sortait d'un océan de livres pour se plonger dans un autre plus vaste. Il était souvent de caractère difficile quand il avait passé 2, 3 ou 4 nuits de suite au travail. Alors là, avec la 5e, il commençait à être un peu énervé. On le comprend. Weifling, donc, voyant tous ses arguments détruits les uns après les autres, s'irrite et lui dit, oui, nous n'avons pas besoin d'intellectuels et de théories, ce que les ouvriers ont besoin, c'est de combattre, etc. Alors Marx, à ce moment, se fâche, qui avait gardé, qui était très vif dans la discussion, mais qui n'avait pas explosé. Là, il explose et il dit cette phrase fameuse, l'ignorance n'a jamais servi de rien à personne. L'ignorance n'a jamais servi de rien à personne, la rupture est consommée, Weifling partira aux États-Unis où il participera de l'entreprise de communisme moral fondée sur l'amour et d'autres belles choses préconisées par un membre de la Ligue des communistes appelé Kriege, ce qui amènera le comité de correspondance de Bruxelles à faire une circulaire contre Kriege, qui sera l'un des éléments de la lutte au sein des comités de correspondance qui se sont étendus entre-temps à l'Allemagne occidentale, à Paris, et surtout au noyau central des chartistes, des révolutionnaires des chartistes et de la Ligue des communistes, de ce qui ne s'appelle pas encore la Ligue des communistes, de la Ligue des élus.
Le grand Arnaud de France, qui à l'époque était le secrétaire général des jeunesses socialistes de la Seine et s'orientait vers le trotskisme, il faut d'ailleurs dire objectivement que dans les déclarations qu'il a faites à la presse, il n'a pas éprouvé le besoin de cracher sur sa jeunesse, ce qui est déjà quelque chose, et qu'il n'a pas dit qu'il regrettait ce qu'il avait
fait de cette société, parce que cette société est fondée sur le capitalisme, elle est fondée sur l'apparence d'un libre contrat entre ouvriers et patrons, avec vente du travail et en échange salaire. Elle est fondée sur l'apparence d'individus libres et égaux qui entretiennent de libres rapports entre eux, et par là même, sous toutes ses formes, elle nous crie, l'individualisme, elle nous crie la distorsion, elle nous crie la destruction sous toutes ses formes d'une organisation révolutionnaire qui est quelque chose d'absolument antinaturel dans cette société, contraire au rapport de cette société. Le seul moyen d'y résister, c'est la conscience. La conscience, ça n'est pas seulement la connaissance, mais l'un des éléments pour un militant communiste de la conscience, c'est la connaissance de la théorie scientifique de la révolution prolétarienne, c'est-à-dire du marxisme. Je reconnais, j'affirme, et ceux qui disent le contraire mentent ou se trompent, que c'est certainement l'activité la plus difficile pour un militant. Qu'il est 100 fois plus facile de passer 20 heures par jour en diffusion et en tirage à la Ronéo et en réunion prolongée au-delà de tout bon sens sans qu'on règle rien, parce qu'on peut considérer que souvent, à partir d'un certain nombre d'heures, plus la réunion est longue et moins elle règle de choses, ceux qui contesteraient, cette fois c'est bien le mot contester qui convient, ceux qui contesteraient cette affirmation je suis tout prêt à ouvrir la discussion là-dessus sur la base de l'expérience. Il y a un nombre d'heures convenables pour une réunion donnée qui correspond à la nature de cette réunion. Et si ce nombre d'heures convenable est dépassé, l'expérience montre qu'ensuite, le rendement, ça baisse au fur et à mesure que ça dure. C'est d'ailleurs normal. Ça s'explique politiquement, parce qu'une réunion, c'est un cadre politique déterminé. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un lieu où les intelligences discutent entre elles de problèmes. Eh bien, il est 100 fois plus facile de faire cela, de diffuser, de courir toutes sortes de choses, que de s'imposer le temps nécessaire aussi dans le cadre d'une activité militante qui doit être contrôlée par le militant et non pas abandonnée à la libre fantaisie, 100 fois plus difficile de décider d'étudier quand on l'a décidé. Alors, autrement dit, le fait de comprendre que la formation est une partie intégrante et inséparable de l'activité d'une organisation comme l'AJS pour que ses militants puissent remplir la tâche qui est la leur, c'est-à-dire la construction d'une organisation de masse de la jeunesse, parce que pour construire une organisation de masse à partir de ce qui existe, il faut que non pas seulement quelques cadres, mais chaque militant s'élève au niveau d'être un cadre d'organisation pour la jeunesse, pour les masses de la jeunesse. Et pour être un cadre d'organisation pour les masses de la jeunesse, il faut en savoir assez pour ne pas être tenté de continuellement bluffer et prétendre qu'on en sait trop. Ce qui est le plus odieux, pour ma part, ce que je trouve le plus odieux chez certains militants de l'AJS, c'est cette attitude de supériorité qui affecte certains d'entre eux vis-à-vis des jeunes. Moi qui suis marxiste, c'est le cas où Marx dirait bien, comme il l'a dit d'ailleurs dans quelques années avant sa mort, moi en tout cas je ne suis pas marxiste. D'ailleurs, à écouter parler ses camarades, on se demande comment Marx pouvait faire pour démontrer quoi que ce soit, lui qui ne pouvait pas commencer chaque phrase par les principes du marxisme, démontre qu'il s'en tirait quand même pas mal. Donc, mais pour échapper à cette tendance, pourquoi est-ce que ses camarades affectent une supériorité? Il faut bien le comprendre, ils ne sont pas pires que les autres. Premièrement, ils viennent de découvrir un tout petit peu le marxisme, et ils trouvent que c'est formidable et c'est légitime. Et ils deviennent par conséquent complètement incapables de se rappeler que 6 mois plus tôt, ils ne savaient pas ça, et que le jeune qui est devant eux peut bien en être là où ils étaient 6 mois plus tôt. Et puis deuxièmement, ils savent bien au fond qu'ils ne savent pas grand-chose, alors ils essayent de se donner une confiance qu'ils n'ont pas naturellement. Le seul moyen d'échapper à cela, c'est d'acquérir effectivement des bases sérieuses. Bases sérieuses qui sont aussi le seul moyen de savoir analyser dans chaque combat particulier, et je n'en parle pas par combat seulement un combat de rue ou seulement une grève, un combat c'est aussi une discussion politique dans une assemblée, un combat c'est dans les facultés la construction de l'UNEF, et recruter, vendre 2 cartes de l'UNEF c'est un combat, tout ce que nous faisons est un combat. Le seul moyen d'arriver à déterminer les mots d'ordre, la ligne juste dans un combat particulier, c'est de disposer d'une conception globale suffisamment claire du combat d'ensemble pour être capable de retrouver les lois du combat d'ensemble sous la forme particulière qui convient au cas particulier. Bien sûr, rien n'est plus difficile, c'est là tout l'art du militant communiste, et de ce point de vue, vous aurez la satisfaction de voir dans les exposés dont j'ai parlé tout à l'heure, y compris des gens qui nous valaient bien comme Rosa Luxembourg, ont fait toutes sortes d'erreurs. Et Lénine aussi, il ne s'en cachait pas. Un peu moins, d'ailleurs. Dans ce domaine particulier de la stratégie et de la tactique, Lénine était le plus grand maître. Mais de toute façon, c'est le plus difficile, mais on ne peut y arriver que si on parvient à retrouver la conception globale dans le cadre du problème particulier. Sinon, en effet, c'est-à-dire si on fait comme nous faisons tous, si on aborde le problème particulier dans un cas particulier, alors on est perdu. On est perdu parce que la particularisation, c'est l'autogestion. La particularisation, c'est l'empirisme. La notion du combat de classe émancipateur des prolétariats n'a de sens, ne peut être abordée qu'à partir d'une conception globale du prolétariat comme classe mondiale, dans laquelle la détermination suprême, l'explication suprême de tout ce qui se passe sous nos yeux, c'est la lutte de classe mondiale du prolétariat, et c'est à partir de là que nous pouvons comprendre tout le reste, y compris ce qui se passe dans notre amphi, ou dans notre atelier, ou dans notre bureau, et non l'inverse. Alors ça, évidemment, vous pouvez dire, c'est, tu tu lui dis, mais ce n'est pas démontré. Effectivement, l'un des buts de ce qui suivra, c'est-à-dire de conduire la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière à la victoire. C'est tout à fait clair. Bon, alors, je ne répondrai pas en détail sur l'autogestion aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir, sur ce qu'elle signifie pour la CFDT. Je dirais que la caractéristique commune de l'emploi de ce terme par toute une série de tendances les plus diverses, qui disent à son sujet les choses les plus diverses d'ailleurs, par exemple qui idéalisent l'autogestion en Yougoslavie, à ce sujet, dans la dernière vérité, la lettre d'un lecteur yougoslave met les choses au point, et depuis quelques semaines, Tito s'est d'ailleurs chargé d'apporter quelques précisions publiques en dirigeant, sous prétexte d'attaquer la droite nationaliste croate, en dirigeant l'essentiel de ses coups contre la gauche étudiante et révolutionnaire de l'université de Zagreb, de l'université de Belgrade, justement, et non pas de Zagreb, contre la rédaction de Student, etc. L'autogestion yougoslave, cette mythologie. Mais chez tous ces gens, ça a une chose en commun, et ça a été particulièrement clair en mai 68, c'est très simple, c'est de ne pas considérer comme la tâche essentielle la destruction de l'État bourgeois et de la propriété privée des moyens de production et d'échange, l'instauration du pouvoir politique de la classe ouvrière en tant que classe collectivement, réorganisant selon un plan unique l'économie après expropriation des capitalistes. C'est de ne pas poser cette question. C'est ça là, ce qui est central et commun à tous, ce que Mitterrand rejette, ce que la CFDT rejette, ce que le PSU rejette, ce qu'en mai 68 les gauchistes ne voulaient pas, avec leur pouvoir dans la rue, pouvoir à l'université, pouvoir partout, sauf là où il était, c'est-à-dire à l'Élysée, sauf là où il était, c'est-à-dire dans la force de répression concentrée de l'État bourgeois qu'il importait, contre laquelle il importait de diriger les coups des travailleurs, et la nécessité d'élever, face à ce monstre d'oppression et de répression, l'État bourgeois impérialiste policier, et pour le détruire, le pouvoir de la classe ouvrière, sous la forme du Comité central national de la grève générale, préparant un gouvernement uni des organisations ouvrières et des syndicats qui en seraient sortis inéluctablement, qui était en tout cas dans cette perspective. Il s'agissait avant tout, et sous tous les prétextes et tous les motifs, de ne pas poser ce problème qui était le problème central pour la classe ouvrière. Et de ce point de vue, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Ce qui nous différencie de toutes ces tendances, c'est que nous disons avec Marx, qu'il faut détruire l'État, que la classe ouvrière ne peut s'émanciper qu'en détruisant l'État bourgeois et en instaurant son pouvoir politique centralisé, la République des conseils. Non pas un conseil ouvrier à Carpentras et un autre à Beson, mais la République des conseils s'appuyant sur le prolétariat en armes, sur la milice ouvrière. Or, précisément ce que tous ces gens, le rôle de l'autogestion de ce point de vue est avant tout négatif, c'est-à-dire de dire, c'est pas de ça qu'il s'agit, ça c'est de l'archéomarxisme, disent tous ces gens, du vieux marxisme. Nous sommes fiers d'être des archéomarxistes, des vieux marxistes, c'est-à-dire d'affirmer cela, d'affirmer le programme de Marx. Pour nous c'est l'essentiel, et justement pour eux il s'agit que ce ne soit pas ça. Si tu les prends tous et que tu regardes dans le détail, tu t'aperçois que chaque fois, le pouvoir est dans la rue, la République des Soviets, le premier territoire libéré de la République mondiale des Soviets est à la Sorbonne, selon l'expression fameuse qui est justement passée à la postérité de Pierre Franck, etc., etc. La classe ouvrière n'est plus l'avant-garde, ce sont les intellectuels, les étudiants et les intellectuels révolutionnaires, ce sont eux la nouvelle avant-garde. Dixit, Ernest Mandel, le jour du fameux meeting avec Paul Bindit, le 9 mai, à la 68 à la mutualité, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et toujours ça. Il s'agit avant tout, comme tout gauchisme d'ailleurs, d'une idéologie de diversion de la classe ouvrière pour la détourner de sa tâche historique politique fondamentale, prendre le pouvoir, détruire l'État bourgeois, instaurer son propre pouvoir, la dictature du prolétariat, la République des conseils, mais non pas encore une fois comme un des conseils ici, là et ailleurs, mais comme le pouvoir concentré de toute la classe en tant que classe, et non pas des travailleurs de Beson ou des travailleurs même de Nantes ou de n'importe où. Bien entendu, cette République des conseils s'appuie sur les conseils. Elle n'est pas un État au sens traditionnel du terme. Elle est la classe ouvrière au pouvoir. Les délégués, ils sont révocables à tout moment. Tout ça, nous y reviendrons. C'est l'objet d'un exposé entier. Et ça a été exposé par Lénine dans l'État de la Révolution. Bien entendu, tout cela. Mais ces messieurs ne sont pas en train de nous dire qu'il faut une autre sorte d'État ouvrier. C'est pas tout à fait celui de Lénine. Non. Ils sont en train de nous dire n'importe quoi pour qu'on ne parle pas de ça. N'importe quoi, et en particulier l'autogestion, qui a des côtés séduisants pour les gens qui ne réfléchissent pas suffisamment, qui peut être présenté sous toutes les formes possibles. Il y en a en Yougoslavie, il y en a dans l'Algérie de Boumdjène, il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas au fait? Où est-ce qu'il n'y en a pas? Il y en a dans les universités américaines, il y en a dans le premier camp hippie venu, il y en a partout de l'autogestion. C'est formidable ce qu'il y en a. Et par contre, le pouvoir démocratique de la classe ouvrière, la dictature du prolétariat, il n'y en a nulle part. Alors évidemment, c'est un bon truc, c'est une excellente diversion, une puissante diversion qui plonge des racines profondes dans l'hostilité des petits bourgeois. Dans l'hostilité des petits bourgeois et d'un certain type d'ouvriers écœurés par les grands appareils bureaucratiques à l'organisation centralisée nécessaire pour combattre, dans les excès bureaucratiques continuels de l'appareil stalinien, dans ce qui se passe à Prague, tout ce que vous voulez. Bien que d'ailleurs, Viérec soit tout à fait un partisan de l'autogestion comme Tito. Vraiment, c'est touchant. Il est vrai qu'il est ami de l'Église catholique et qu'il n'a pas de plus sûr appui en Pologne que l'Église catholique. C'est une des raisons pour lesquelles le livre que nous allons publier, c'est-à-dire le compte-rendu intégral de la discussion qu'a eu Viérec le 24 janvier 1970 avec le comité de grève des ateliers Varsky de Cécine, livre qui est actuellement à l'impression, nous n'avons pas pu trouver d'éditeur bourgeois pour ce livre, parce que ça n'intéressait pas les amis des staliniens, ça n'intéressait pas les bourgeois, et ça n'intéressait pas le seuil, parce que le seuil est lié à l'Église. Mais de toute façon, Guéret est pour l'autogestion. Il est pour les conseils ouvriers dans les usines. Conseils ouvriers qui ont un rôle limité, théorique d'ailleurs, parce qu'en plus ils sont bureaucratisés, mais la question n'est pas là. Conseils ouvriers qui ont, comme en Yougoslavie, un rôle économique limité, mais qui ne sont pas le pouvoir politique et qui ne peuvent pas l'être tant qu'ils sont des conseils d'usine et non pas le congrès des conseils. Et non pas le congrès des conseils ou le congrès des soviets prenant le pouvoir. Mais seulement le grotesque mascarade bureaucratique appelé par Tito congrès de l'autogestion, loué par Mandel, porté au nu d'ailleurs par un tas de gens. Toute la liaison se fait là. Vous avez Pablo, qui lui est resté intégralement papiste, vous savez, mais Mandel ne l'est plus depuis, comme chacun sait, mais Pablo dirige une revue appelée Autogestion, comme par hasard. Pablo est un de ceux qui pensent, comme Mandel, que l'anticléricalisme vulgaire de Juliette et des Lambertis est un scandale dépassé depuis très longtemps. Il est d'accord là sur ce terrain avec Mitterrand qui explique le caractère dépassé, vous voyez l'information là de cette semaine, de l'enseignement laïque et de querelles dépassées, comme de poser des questions du rôle de l'Église, etc. Qu'est-ce que ça peut faire? Les curés sont instituteurs, même si les curés, après tout, c'est des hommes comme les autres, ne veulent-ils pas se marier? C'est bien là qu'on reconnaît un homme comme un autre. C'est bien là que j'ai eu l'occasion récemment au cercle d'études marxistes de Bruxelles de faire un exposé sur la religion, sur l'Église, la religion et lutte des classes, où j'ai parlé pendant 4 heures devant seulement malheureusement 37 personnes, dont un curé qui est parti au bout d'une heure, de gauche, bien sûr, d'extrême gauche, aussi rouge que possible, qui est parti au bout d'une heure en disant à qui voulait l'entendre, que, assez peu de gens d'ailleurs, qu'il ne pouvait pas en entendre davantage. Quant au séminariste, il a tenu le coup jusqu'au bout, rougissant. Et il n'a pas dit un mot dans la discussion, j'ai peut-être sauvé cet homme d'être curé, j'espère qu'il m'en sera reconnaissant. Et je me rappelle avoir fait remarquer en particulier cette chose que, mais ils commencent à nous faire chier avec leurs histoires, qui se marient ou qui ne se marient pas, qui couchent ensemble par 2 ou par 7. Le chiffre de 7, comme vous savez, est sacré dans l'Ancien Testament, ça serait peut-être mieux, j'en sais rien, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre, toute cette histoire? Par contre, parlons un peu des biens de l'Église, des milliards de l'Église,
du rôle politique et social de l'Église, ça c'est déjà plus intéressant, vous savez. Bon, alors donc on les retrouve tous là-dedans, autogestion, autogestion. Ça veut dire n'importe quoi. Ça veut dire que les élèves d'une classe vont désormais décider eux-mêmes le programme de la classe. Quand je faisais une classe, moi, de mathématiques, je me rappelle, on demandait à mes élèves, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait des groupes, on fait quoi? On n'en fait pas, on fait... Mais comment voulez-vous qu'on le sache? On ne sait pas ce que c'est. Hein. Moi, je sais un petit peu, maintenant, si vous trouvez que je ne sais pas assez, ça c'est autre chose, ça vous avez le droit. Mais du fait que je sais un petit peu, je décide tout seul, autoritairement et bureaucratiquement, qu'on va faire des groupes. Alors après, dans 2 ans, vous serez à même de juger si j'ai bien fait ou pas, ça c'est vrai, vous pouvez m'écrire, monsieur, c'est scandaleux, vous avez fait les groupes, vous avez dû faire autre chose, maintenant je le sais. J'accepterai votre critique à ce moment-là, mais bon, ça c'était aussi l'autogestion. L'autogestion, c'est le fait que les ouvriers d'une usine vont, dans le cadre de cette usine, être la section syndicale d'entreprise, jouant un rôle dans la gestion de l'entreprise. Alors la CFDT ne dit pas collaborant avec le patron pour gérer l'entreprise. Elle ne peut pas dire ça parce qu'elle se démasquerait complètement. Mais la ligne c'est celle-là. Et ça ne peut être que celle-là dans le cadre de l'entreprise. Parce que du point de vue du capitalisme, en tant que régime économique, l'entreprise ça n'existe pas. Il existe des capitaux, il existe une société par action possédant un capital, lequel est investi dans 1000 entreprises peut-être, dont celle-là. Par exemple, aux États-Unis, la principale caractéristique des compagnies de chemin de fer, c'est que la grande majorité de leur capital est investi dans n'importe quoi sauf les chemins de fer, lesquels sont d'ailleurs en déficit. Et la Pennsylvania Central Company est effectivement le 5e trust du monde, ou plutôt l'était parce qu'elle a fait faillite il y a 3 ans, ça a été assez retentissant, les éléments de la marche à la crise. Mais son capital était investi un peu dans les chemins de fer, mais pas beaucoup. Alors, à plus forte raison, un réseau de chemin de fer, c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise dans ce cas-là? Ça n'existe pas. Ça n'a aucune réalité économique. C'est une réalité matérielle, il y a une bâtisse et des machines dedans. Mais ça n'a pas de réalité dans le mécanisme de l'économie de cette société. C'est-à-dire qu'imaginer que les ouvriers, s'emparant même de cette usine et en chassant le patron, puissent faire autre chose que des fantaisies, mais ça a été essayé. En Espagne, lisez le livre de Pierre Rouet et Témime, sur la révolution espagnole, vous verrez un tas de choses intéressantes sur les expériences d'autogestion qui ont été faites par les ouvriers anarchistes dans la guerre d'Espagne. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? Étant donné qu'il n'y avait pas de plan d'ensemble, étant donné que l'État bourgeois restait en place, étant donné que la propriété privée des entreprises restait en place, étant donné que les banques n'étaient pas expropriées et socialisées, etc., etc. Ben, supposons que les ouvriers de Renault, Billancourt, s'emparent de l'usine. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont vendre des automobiles. Ils fixeront arbitrairement les prix tant qu'ils en auront. Alors ils pourront même les vendre chers, pas chers, ils feront beaucoup de bénéfices, pas de bénéfices, on verra bien. Mais quand il faudra se réapprovisionner en matières premières, quand il faudra instaurer des rapports d'autogestion à autogestion avec Renault Flins, avec ceux qui fabriquent des pièces dans les Alpes, en Savoie, je ne sais pas où, etc. Et quand il faudra instaurer des rapports avec les usines qui produisent les tôles d'acier, avec les usines qui produisent les roulements à billes, ou les sous-traitants, ou ce qu'on voudra, ces rapports se feront par l'intermédiaire du marché capitaliste, moyennant vente et achat. Sur le marché capitaliste règne la loi de la valeur. Les capitalistes ne sont pas expropriés. Le commerce passe par l'intermédiaire des banques. Les banques restent entre les mains du capital, etc. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, les ouvriers associés de chez Renault feront faillite rapidement et ça sera repris par la banque. Ça ne s'est jamais passé à l'échelle de chez Renault, mais ça s'est passé à l'échelle d'innombrables entreprises. En dernier lieu, historiquement, l'expérience Berlier à la Libération, et ça a fini comme ça, parce que ça ne peut pas finir autrement, parce que le capitalisme est un tout. Si le socialisme... L'autogestion, finalement, c'est le socialisme dans une seule usine. Or, nous affirmons et démontrons, nous y reviendrons, que le socialisme n'est pas possible dans un seul pays. Il n'est possible que dans le monde entier, que c'est seulement dans le monde entier qu'existera le régime des producteurs associés dont Marx et Engels annonçaient que ce serait le socialisme en effet, et qui ne peut pas exister autrement durablement. Alors on ne va pas expliquer maintenant que le socialisme est possible dans une seule entreprise, c'est une duperie, c'est un mensonge réactionnaire, profondément réactionnaire, c'est au fond, ou c'est une fumisterie destinée à détourner les travailleurs des problèmes réels, ou alors, si ça a un contenu réel,
Eh bien, c'est tout simplement la co-gestion des ouvriers dans l'usine, la participation aux bénéfices. Si c'est un contenu réel, c'est pas autre chose que ça, c'est-à-dire d'associer les ouvriers à la responsabilité de la gestion de l'entreprise et par là même de les obliger à bloquer les salaires pour maintenir le fonctionnement normal de l'entreprise dans le cadre du régime, parce que le fonctionnement normal de l'entreprise dans le cadre du régime ne permet pas de distribuer l'intégralité des produits aux travailleurs. C'est pas vrai, c'est pas possible, ils seront écrasés par la concurrence. Ou ce n'est rien, ou c'est une filisterie qui veut détourner des vrais problèmes, ou c'est ça. Alors ce qu'elle ne veut pas dire, bien sûr, et ça c'est dans la nature des choses dans cette société, que tous ceux qui disent autogestion sont des gens qui disent « Ah mon gars, j'ai l'autogestion, c'est un bon truc, je vais te rouler. » Ils ne le savent pas. Ils le croient. L'idéologie bourgeoise est une réalité qui les étreint et les imprègne. C'est précisément pour ça qu'il faut étudier le marxisme. Il faut étudier une doctrine scientifique, qu'il faut accéder au niveau le plus élevé de la conscience révolutionnaire, parce que c'est le seul moyen de résister à la pression constante de cette idéologie, et qui fait que les gens disent les choses les plus monstrueuses avec une parfaite bonne foi. Avec une parfaite bonne foi, et sans se rendre compte que les idées qu'ils croient être les leurs, venues de leur père, venues de n'importe qui, de leur grand-oncle qui était très malin, mais ce sont les idées de la télévision, des séances de télévision ou de cinéma ou de la grande presse qui les imprègnent, qui les étreignent depuis l'enfance, depuis les manuels d'école, y compris de ce point de vue l'école laïque, la France ma patrie, nos ancêtres les Gaulois. Mais pourquoi est-ce qu'Astérix a tant de succès sinon parce qu'il répète ça continuellement? Parce qu'il répète continuellement tous les principes de l'idéologie bourgeoise, y compris la contestation et la défense de l'environnement. Vous voyez le dernier Astérix, comment ça s'appelle, le domaine formidable qu'on est en train de construire et où les Romains ne seront qu'à 3 semaines de leur lieu de travail, n'est-ce pas, l'espèce de Paris II de l'époque, comment ça s'appelle. Oui, le domaine des dieux, merci. Pourquoi ça réussit sinon? Parce que c'est l'idéologie bourgeoise, sous une forme amusante. Mais ça donne aux gens leurs propres idées, ce qu'ils croient être leurs idées, y compris l'autogestion sous la forme de la défense de l'environnement et tout ça. Et je n'exclus pas que dans un prochain, il y ait l'autogestion, puisqu'en plus, ah, c'est un mot grec, donc on peut très bien. Je vois très bien ça en Grèce. Avec en plus le pays classique de la démocratie, il devrait collaborer avec moi pour écrire ça, pour arriver à un.
Une certaine direction de l'Église avec la masse des prêtres, la masse des curés, qui, pas comme on a l'air de le croire, n'est pas si arriérée que ça. Et je pense que c'est un peu facile d'en rigoler assez grassement même. Tout ce que j'avais à dire. Quoi. Je veux dire aussi que, quelle que soit la justesse des solutions que l'on propose, un peu moins d'assurance n'est souvent pas mauvaise.
Bon, je voulais m'arrêter sur le fait que le camarade Bloch a pris. Oh oui. Que le camarade Bloch a pris le livre Qu'est-ce que la JS ? Et il m'apparaît important, disons, et principalement dans cette école de formation, de voir que nous recrutons, et la bagarre qu'ils nous enfonce effectivement pour devenir une organisation de masse, donc recruter l'ensemble des jeunes dans ce pays, mais également que par rapport effectivement à cette brochure, que les militants qui, pour des raisons multiples, se la procurent, tombent en face de cette lecture qui pourrait leur paraître, disons, assez difficile à comprendre, et qui pourrait même, disons, les éloigner pour quelque temps de notre organisation. Et il apparaît important également, et je pense que le cadre de l'école de formation pourrait, disons, intervenir dans ce sens, c'est-à-dire de faire une élaboration commune et de sortir en quelque sorte quelque chose qui pourrait armer les jeunes militants auprès d'une telle brochure. Et je pense que c'est quelque chose qui est, disons, une tâche urgente quand on fait, disons, la politique que mène cette organisation.
Non, parce que je voudrais qu'on ait le temps de faire autre chose, et parce que ceci n'est que la première séance, bien sûr, une séance dans laquelle j'affirme effectivement un tas de choses centrales. J'ai d'ailleurs dit à la fin cette conception que vous pouvez dire c'est faux. Précisément, ça fera l'objet des discussions suivantes, et pour l'instant, je ne prétends pas du tout avoir démontré qu'il était juste la conception qu'il faut procéder dans l'analyse d'une situation à partir de la lutte des classes mondiales comme catégorie déterminante. C'est évident. Ceci dit, le camarade Barietti, je lui dirai que c'est parfaitement normal ce qu'il a dit. Je n'ai nullement l'intention, je crois que la meilleure manière qu'on peut avoir entre militants de témoigner le respect qu'on porte à des militants qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est de ne pas mâcher les mots et de lui dire carrément ce qu'on pense, même si ça doit le choquer. C'est au contraire une attitude de mépris vis-à-vis de quelqu'un que de le ménager. Je ne ménagerai pas le camarade Barietti, pas plus qu'aucun autre, et d'ailleurs je ne sais pas ce que pensent les camarades qui sont là sur aucune des questions que j'ai soulevées, et je m'en moque, je défends les positions du marxiste telles que je les comprends. Personne n'est obligé de vous croire sur parole, et seuls les imbéciles croient sur parole. Et il me précisait les imbéciles sans espoir. Sans espoir. J'espère qu'il y a ici au moins des imbéciles avec espoir. Donc, ne croyez pas sur parole. Je ne sais pas si j'ai fait preuve d'une confiance en moi exagérée. Je n'ai pas d'ailleurs particulièrement confiance en moi. J'ai par contre la plus grande confiance dans la doctrine scientifique élaborée par Marx et Engels et développée par leurs successeurs Rosa Luxembourg, Lénine, Trotsky et quelques autres. J'ai la plus grande confiance dans cette doctrine, laquelle n'est pas l'acte de foi du croyant, mais le résultat d'une expérience de beaucoup d'années de militantisme. Ça doit bien faire 33 maintenant, ce qui ne rajeunit pas, ou 34. De 34 années de militantisme au cours desquelles j'ai éprouvé cette doctrine comme étant l'expression scientifique de la lutte de classe du prolétariat pour le socialisme. Alors cette confiance ne peut pas être partagée par quelqu'un qui n'a pas les mêmes raisons que moi et qui peut considérer comme des affirmations dogmatiques toutes sortes de choses que j'ai dit, d'ailleurs sans son jusqu'à présent, mais précisément les exposés suivants auront pour but de commencer à démontrer une partie au moins de ces affirmations. Et la discussion se poursuivra et sera libre. Le camarade Barietti peut qu'il soit choqué par mes plaisanteries, ma foi, c'est assez ennuyeux, mais enfin en France quand même ça. Enfin, je rappellerai un exemple historique. Lors de la Révolution allemande de 1848, il y avait parmi les plus brillants journalistes de la Nouvelle Gazette Rhénan, le quotidien dirigé par Marx, et qui était dirigé et écrit par des militants de la Ligue des communistes. L'un d'eux, c'était le poète Gustave Wert, poète communiste, prolétarien, qui avait ensuite vécu en exil et est mort de tuberculose quelques années après, et dont on a réédité récemment à Berlin-Est les œuvres, qui tenait en particulier une chronique comique, les merveilleuses aventures du chevalier Schnapphansky, qui faisait recourir à la Gazette Rhénane et toute la population de Cologne, sauf le prince Lichnowsky, haut dignitaire de l'État prussien, qui était caricaturé de façon voyante dans cette chronique comique, si bien que ça a valu à Wert des poursuites et de la prison, et finalement il a dû fuir. Et il est aussi l'auteur du fameux poème qui dit « Oui, on dit que les communistes veulent la communauté des femmes, bien sûr, ils la veulent, mais les plus belles filles, c'est le refrain du poème, il y en a une vingtaine de strophes, oui, bien sûr, il y aura la communauté des femmes, mais les plus belles filles seront pour le rédacteur de la Nouvelle Gazette Rhénane. » C'était le quotidien de Marx et Engels, gens qui, comme vous savez, ont des barbes et sont vachement sérieux. Si vous avez lu des œuvres de Marx comme « La Sainte Famille » que vous avez au moins sous la forme d'une édition facile à trouver aujourd'hui et pas très difficile à lire, vous verrez qu'il savait rire autant que n'importe qui et qu'il y a peu d'ouvrages plus drôles, sinon son pamphlet contre Karl Vogt, Herr Vogt, qui malheureusement n'existe pas dans une édition facile à trouver et lisible actuellement, et qui développe en même temps la vue la plus profonde de la politique internationale européenne dans les années 50-60, la démonstration de Karl Vogt est un agent de Bonaparte, ce qui a été démontré au lendemain du 4 septembre, parce qu'on a trouvé dans les archives le reçu de 2000 francs de Vogt, ce qui était assez satisfaisant pour Marx, qui avait été
vilipendé par Faux, qui est accusé d'infâme calomnie contre lui, et puis quand même arrivait le moment, et voilà le document, vous venez de dire. Alors tout ce livre se déroule d'une part de la plus grande profondeur, d'autre part il y a fait, c'est le seul de ces livres où il fait l'étalage de sa culture littéraire universelle, c'est-à-dire que chaque chapitre commence par une citation d'un grand auteur de la littérature européenne. Alors il est défilé Shakespeare, Dante, Camoens, je ne sais pas qui, toutes sortes de gens que je ne connais pas, mais qui lui connaissaient, les classiques du grec. Heureusement il n'avait pas étudié le sanskrit comme Engels, sinon ça aurait défilé aussi. Et en même temps, alors ça se déroule sous l'angle unique que Herr Faux, naturaliste, matérialiste vulgaire, c'est lui l'auteur, non c'est pas lui l'auteur, mais c'est lui le prophète de la parole fameuse, la pensée est au cerveau comme l'urine est au rein, est en même temps bourgeois rondouillard de Genève, vous verrez le boulevard Karl Vogt à Genève, est la nature arrondie, et en même temps la nature arrondie, alors il n'intervient là-dedans que comme la nature arrondie, tout le long du livre, et en même temps le naturaliste arrondi, la nature arrondie, et en même temps comme la réincarnation de Sir John Falstaff, le personnage de Shakespeare que vous connaissez peut-être grâce à un film d'Orson Welles qui est là. Non, mais tant pis pour vous. Enfin, de toute façon, Marx savait être drôle, et Berthe ne le gênait pas. D'ailleurs, mais pour consoler le camarade Barietti, je dirais qu'au moment où, 20 ans après la mort de Berthe, alors que la social-démocratie allemande était en plein développement, Engels, Marx était mort, a écrit un article de souvenir sur Gustav Berthe, dans lequel il rappelait toutes sortes de choses, le rôle qu'il avait joué dans la Ligue des communistes, la Nouvelle-Weltrelle, tout ce qui s'ensuit, et il ajoutait, Werth était un poète qui avait l'habitude de décrire l'amour entre l'homme et les femmes sans mâcher les mots et en termes tout à fait clairs et concrets. Malheureusement, vous, ouvriers allemands, à l'époque, c'était 1885, les ouvriers allemands, y compris les dirigeants sociaux-démocrates qui, eux, en tant que bureaucrates, le sont restés, les Allemands ont fait des progrès depuis, les ouvriers allemands étaient plus gibbons comme un curé, on ne peut pas dire le contraire. Comme un pasteur ou comme un rabbin, si ça peut faire plaisir avec un marin. Et alors il dit, Engels, eh bien si on publiait maintenant dans l'organe du parti un de ses poèmes, vous, ouvriers allemands, vous seriez choqués. Tant pis pour vous, il dit, et j'espère bien que dans un temps proche, vous en arriverez au point où vous pourrez apprécier les poèmes de Gustav Werther. C'est comme ça que se termine son article, je ne peux dire ça pour le caractère de mes plaisanteries. Quant à l'Église, on aura peut-être l'occasion d'y revenir une fois ou l'autre. De toute façon, il faudra bien que j'en parle, et c'est important. C'est important parce que nous sommes la seule tendance qui considère encore aujourd'hui, premièrement, que la religion est l'opium du peuple, et que si l'État ouvrier est neutre par rapport à la religion, autrement dit, selon l'expression fameuse de Marx, l'État ouvrier doit reconnaître, ou la République démocratique, doivent reconnaître à chacun le droit de satisfaire ses besoins religieux comme il l'entend, sans que la police y mette son nez, comme ses besoins corporels. Ça aurait été plus clair, c'est l'expression même de Marx. Chacun doit pouvoir satisfaire librement ses besoins religieux comme ses besoins corporels, sans que la police vienne y fourrer son nez. C'est ce qui peut s'interpréter, à mon avis, d'ailleurs, d'une seule façon, en ce qui concerne les besoins corporels. C'était aussi l'avis d'Engels, qui trouvait cette phrase admirable, et qui était furieux parce que quand Kautsky a publié ce texte 15 ans après que Marx l'ait écrit, c'est la critique du programme de Gotha, vous l'avez peut-être connu, Kautsky a coupé cette phrase pour ne pas choquer les pudiques allemands du Vorstand de la social-démocratie. Il y avait un tas de problèmes politiques liés à ça, et Engels a dû s'incliner, puisqu'après tout, c'était quand même pas l'essentiel du point de vue politique, mais en tout cas, c'est ça notre position. L'État ouvrier est neutre, mais le parti n'est pas neutre. L'OCI n'est pas neutre, en tout cas, bien sûr, ça ne vous engage pas, mais moi, j'exprime les vues qui sont celles de mon organisation, pas sur tous les points, sur un certain nombre de points, j'exprime aussi les vues personnelles, parce que l'OCI n'a pas de position précise, je crois, sur... Enfin, je ne sais pas, sur le concile de Nicée, des choses de genre, nous n'avons jamais discuté. Nous ne ferons pas, parce que nous considérons que le parti révolutionnaire doit avoir des positions, non pas sur tout, mais sur le minimum de choses indispensables pour ses objectifs politiques. Vous ne nous verrez jamais en tant qu'organisation prendre position pour ou contre le surréalisme, pour ou contre l'art abstrait, ou quelque chose de ce genre. Ça, chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais ce n'est pas une question de parti. Et de la même manière, mais en tout cas, par contre, fondamentalement, nous avons une position sur la religion qui est que nous ne sommes pas neutres par rapport à la religion. La religion est une forme la plus profonde qui soit de l'aliénation. La religion chrétienne est une religion exceptionnellement réactionnaire. Ça, c'est une affirmation, bien sûr, je ne m'entends pas sur parole, on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion sûrement d'y revenir. Il le faudra même, il faudra que tu notes ça, de nous faire penser d'intéresser, parce que c'est un problème qui existe. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un problème. C'est un problème réglé pour la classe ouvrière, en ce sens qu'en général, elle ne croit plus ni à Dieu ni à diable, y compris si les ouvriers, il leur arrive de se marier à l'église, c'est justement parce qu'ils n'y attachent aucune importance et que ça fait plaisir à telle grande tante, et comme ça n'a rigoureusement aucune importance pour ne pas le faire. Mais c'est un problème qui a son importance politique dans la lutte des classes aujourd'hui. C'est pourquoi nous y reviendrons. Nous pensons cela. Nous, en tant qu'organisation, nous ne sommes pas neutres, c'est pourquoi j'ai exprimé des vues qui peuvent choquer les uns ou les autres, de même qu'il pourrait y avoir ici, pourquoi pas, ils y ont leur place s'ils veulent venir, les militants de la Ligue communiste, ils auront à ce moment-là leur place à la tribune pour expliquer ce qu'a voulu dire Weber et montrer que j'ai dit des bêtises et que j'ai calomnié Weber, puisque nous passons notre temps à falsifier Weber, comme chacun sait, et Mandel, surtout Mandel, la plus grande victime des calomnies de l'histoire. Mais par contre, ces camarades ne peuvent pas me demander d'exprimer sous une forme réservée, dubitative, ce que je crois être vrai. Ça, ils ne peuvent pas me le demander, je ne le ferai pas. Je ne leur demande pas de le faire non plus. Moi, j'ai un certain nombre de certitudes. Ces certitudes sont pour moi scientifiquement démontrées par l'expérience historique du mouvement ouvrier. Ça se discute, bien sûr. Non seulement la discussion est légitime, mais elle est indispensable. Il n'y a aucun dogme du marxisme. Chacune des propositions du marxisme doit être discutée, vérifiée par l'expérience du mouvement ouvrier et de la lutte, et démontrée. Mais par contre, qu'on ne me demande pas à moi qui les crois exactes, de dire le contraire, parce que c'est de faire preuve d'une réserve que je n'ai aucune raison d'avoir. De la même manière que si j'exposais la théorie du fonctionnement des atomes, je ne vois pas où la théorie de la relativité générale, laquelle est scientifiquement démontrée encore récemment par de nouvelles expériences, je ne vois pas pourquoi je dirais peut-être que oui, peut-être que non, et peut-être autre chose, parce que c'est la réalité même de l'univers. C'est pas toute la réalité. Le marxisme sera dépassé. Il sera dépassé quand il aura rempli sa mission historique, c'est-à-dire dans la société communiste sans classe, où à ce moment, il ne sera plus qu'un élément d'un passé qui se terminera, et où l'humanité accédera à des modes de pensée sans aucun doute incomparablement plus élevés. Mais que nous ne pouvons évidemment pas imaginer, et pour l'instant, le marxisme est l'arme la plus précieuse de la classe ouvrière dans sa lutte émancipatrice, et c'est pourquoi nous ne sommes pas disposés ni à y renoncer, ni à y mettre une sourdine. Bon, alors, sur les questions du second camarade, ça va beaucoup plus vite. Je pense en effet qu'il faut qu'il y ait des réponses sous différentes formes, mais la difficulté est toujours la même. C'est que pour répondre à 100 pages de sottises, quand on veut faire une réponse autre que de démontrer l'absurdité, comme dans là, je pourrais prendre 20 exemples comme celui que j'ai donné et montrer que ça ne tient pas ensemble, que c'est incohérent. Mais quand on veut répondre fondamentalement, c'est-à-dire en opposant à ces sottises le marxisme, alors c'est pas 100 pages qu'il faut, c'est un beaucoup plus gros travail, beaucoup plus long. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Par exemple, ce que dit Weber des forces productives, c'est ridicule. Mais ce qu'il convient de dire du problème des forces productives, ça n'est pas 10 pages. C'est pas possible. Alors je pense que ça se fera, mon ami Octave Boismontier a commencé à travailler sur en particulier cette question des forces productives parce qu'il y est obligé dans la suite de son article La Vérité, seulement il ne va pas vite parce qu'il refuse toujours de faire quoi que ce soit quand moi je fais autre chose, et ça c'est bien merdant. Mais enfin en tout cas, différents camarades y travaillent et c'est évidemment une chose qu'il faut faire. On peut aussi envisager d'ailleurs, et ça me fait passer immédiatement au point suivant, s'il y a des responsables de l'école dans chaque cercle, si les camarades d'un cercle déterminé, y compris sympathisants d'ailleurs, peu importe, forment un groupe cohérent, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens différents chaque fois, mais que c'est les 5, 4, 8 même, 3 même chaque fois. Alors on peut constituer des groupes de travail qui rempliront une tâche déterminée qui sera publiée ensuite dans le bulletin de l'école ou sous des formes qu'on verra, qui peut contribuer à préparer des camps d'été, qui peut contribuer à faire 20 000 choses, des articles de JR, de NEM, de La Vérité. À ce propos, si vous n'êtes pas abonné à La Vérité, ça finira mal, je vous dis ça tout de suite. C'est beau mieux vous prévenir que vous aurez du mal à ne pas l'être. Enfin, je ne vais pas plus loin aujourd'hui, chaque chose en son temps. Je préfère préparer l'avenir. Donc, ça peut servir à cela, ça peut servir à alimenter des CEM locaux, toutes sortes de choses. Seulement, ça suppose que le travail se fasse, ça suppose donc qu'il y ait des structures organisées. Parce qu'un groupe de travail ne peut pas être fabriqué artificiellement avec quatre personnes qui lèvent la main dans la salle aujourd'hui, ça ne tiendra pas. Si c'est les militants d'un même cercle et leurs sympathisants, si c'est un groupe de gens, c'est possible. C'est possible parce que ces gens, ces camarades se revoient de toute façon, ils peuvent entraîner d'autres camarades du cercle, ils peuvent voir. Alors c'est pourquoi je crois que cette fois-ci, contrairement à ce qui avait été fait au premier, à la première session, on n'a pas réussi à le faire, il importe d'attribuer beaucoup d'importance à ce lien entre la vie de la JS. Non pas que l'école doit répondre aux besoins immédiats de l'intervention. Ça, je ne le crois pas, parce que les besoins immédiats de l'intervention découlent d'une conception globale, et le rôle de l'école est avant tout de donner cette conception globale, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas y poser une fois ou l'autre un problème qui se pose maintenant, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut la régler. Mais par contre, donc, avoir le lien entre l'école et les cercles, les comités fédéraux, etc. Alors moi, je propose une chose. Nous avons là une liste de 40 cercles représentés, mais qui ne sont pas tous représentés de façon nombreuse, bien sûr. Combien y a de camarades en plus dans la salle? Je ne sais pas, un peu plus de 100 sans doute. Combien y a de camarades présents? Vous l'avez compté là-bas? Non, bon, ben, ça ne fait rien, on aura le compte plus tard. Il doit y en avoir peut-être 150, je ne sais pas, hein, oui. Bon, alors de toute façon, ça fait une moyenne de 4 par cercle. Certains cercles, ce ne sera pas possible, d'autres, ça l'est. Je proposerai la mesure suivante. Je proposerai que je lise ces cercles, que les camarades se consultent du même cercle, et qu'ils désignent dès ce soir, et nous laissent nom et adresse, d'un responsable au moins provisoire de l'école dans le cercle. Je dis provisoire parce que, bien entendu, il faut qu'il soit ratifié ensuite par le cercle lui-même. Ceci dit, si dans un cas particulier de cercle, il y avait un combat terrible et qu'un camarade désigné aujourd'hui comme responsable provisoire se heurte à un autre qui dise « mais moi je veux y aller et être responsable », je ne serais pas personnellement être très conciliant à ce qu'il y ait même deux responsables dans ce cercle et à faire toutes les concessions possibles. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y en ait un. Et comme c'est un-là doit venir à l'école, on peut déjà peut-être commencer, au moins pour une partie des cercles, à le mettre en place aujourd'hui, parce que plus vite on ira et mieux ça vaudra. Parce que quelle est la tâche d'un responsable de cercle, de l'école? C'est d'être un camarade qui assiste régulièrement à l'école, bien entendu, ça c'est impératif, qui est membre du bureau de son cercle, et qui se donne pour tâche politique d'utiliser dans son cercle ce qui se fait à l'école, pour les militants de tout le cercle et par l'intermédiaire de ceux qui viennent à l'école. Donc, c'est lui qui contrôle que les camarades du cercle assistent aussi régulièrement que possible et qui, s'ils n'assistent pas, c'est pourquoi. C'est un camarade prodigieux, c'est-à-dire qu'en cas de besoin, il sait écrire une lettre et s'il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, que les camarades de son cercle n'y viennent plus parce qu'il trouve que ça ne va pas à l'école et qu'on n'y comprend rien, parce qu'il trouve que Gérard Bloch est trop affirmatif ou pas assez, parce qu'il trouve qu'il parle trop des curés ou pas assez, parce qu'il trouve que... Non mais... Et parce qu'il trouve des choses très sérieuses, à savoir qu'il manque absolument des choses essentielles et qu'on ne les a pas vues, eh bien ce camarade prend sa plume et l'écrit au bureau de l'école pour qu'elle le sache. Ou même il vient le jour du bureau de l'école et il dit « Je voudrais que vous entendiez ce que j'ai à dire là. » Le bureau se réunira régulièrement tous les lundis à 17h30 ici, jusqu'à 19h, 19h30, exceptionnellement la semaine prochaine, parce que je témoigne au procès de Berg et je ne peux pas être sûr de l'heure à laquelle le président m'invitera à rendre mon témoignage de moralité pour le camarade Charles Berg. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc je ne peux pas être sûr, donc ça se tiendra seulement mardi à 17h30 au lieu de lundi, exceptionnellement cette semaine. Mais vous notez bien que le bureau de l'école est exceptionnellement mardi cette semaine, je le dis pour les autres camarades qui ne le savaient pas, j'y peux rien, il est préférable que j'y sois je pourrais manquer de rigueur une autre fois, mais là, le premier, après le début, c'est embêtant. Donc, mardi à 17h30, cette semaine, toutes les autres semaines, le lundi à 17h30. Le responsable de cercle écrit à l'école, ici, où même il y vient et il dit les choses importantes qu'il a à dire. Il utilise les exposés faits pour nourrir des activités convenables de son cercle. Il fait preuve d'initiative, il a toutes sortes d'idées, il envoie des articles, il fait écrire des articles pour le bulletin de l'école. Si le nombre des camarades est convenable, il forme ici un groupe de travail qui va par exemple examiner tel point du programme du Parti communiste français et écrire dessus, ou s'il s'agit du cercle de philosophie, disons AER, ceux-ci pourraient accomplir telle ou telle tâche, etc., etc. Tout cela n'est pas limité, n'est pas encore entièrement précis pour une bonne raison, c'est que c'est la première fois qu'on essaie de mettre ça en place. Plus exactement, on a d'abord eu l'école qui était une innovation de ce point de vue, au moins comme une réalité fonctionnant pendant le premier trimestre. Maintenant, nous essayons de faire un pas de plus. Ça peut mener à toutes sortes de choses ou pas, dans la mesure où les cercles s'empareront de l'école comme quelque chose qui est à leur service, non pas leur service dans le sens qu'on va discuter à l'école le problème de la stratégie à Massy-Palaiso ou à, je ne sais, ou à Robinson, ça c'est pas le rôle de l'école, mais dans le sens précis que elle est un instrument que la JS doit saisir. Le responsable de cercle constitue une bibliothèque de cercle dont le premier élément pourrait être l'achat du livre de Brouet. S'il est possible de faire une commande suffisamment nombreuse, groupée, allant par exemple jusqu'à 100 exemplaires, il serait peut-être possible d'obtenir une réduction plus grande qu'on en a, ce qui n'est pas négligeable. Et la dernière fois, il y avait jusqu'à une centaine de cercles qui ont participé à l'école, mais là, il y en a 44 aujourd'hui, mais il y en aura d'autres la semaine prochaine. En tout cas, c'était à étudier. Il a à partir de là une bibliothèque de cercles avec des brochures à bas prix. Il s'efforce de contrôler que les camarades lisent un minimum, en particulier ceux qui assistent à l'école. Lorsque le bulletin publie des textes, mais il n'est pas obligé de faire tout ça à la fois. Et ça ne fait pas tellement de choses finalement. Il est obligé par contre de se servir de sa tête pour voir comment est-ce qu'il peut dans son cercle utiliser l'école pour l'élévation du niveau politique général de la JS et pas seulement de ceux qui vont à l'école. Et alors, à partir de là, peuvent sortir d'innombrables choses, y compris une fois un week-end sur tel sujet, utilisant les matériaux de l'école, y compris je ne sais pas quoi. S'il fait cela, il deviendra peu à peu, non pas seulement le responsable de l'école pour son cercle, mais le responsable de la formation des militants de la JS dans son cercle, et il développera une politique de formation dans le cercle, qui sera nécessairement d'ailleurs différenciée selon les cercles et les besoins. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même pour cette raison, je ne peux pas dire en général ce qu'il fera, parce que je n'en sais rien, parce que ça devrait être différencié, et parce que je suis sûr que si les camarades font travailler leur tête, ils vont sortir 20 idées de plus que celles que je peux donner moi, à condition qu'ils la fassent travailler. Qu'ils la fassent travailler, c'est-à-dire à partir d'une conception politique selon laquelle la formation dans la JS est une tâche militante, qui n'est pas une tâche, la tâche numéro autant, qui n'est pas la plus importante ou moins importante que, ou la troisième d'importance par rapport à je ne sais pas quoi, mais qui se situe au centre politique avec la tâche même de construction de l'organisation, parce que l'organisation de révolutionnaire de la jeunesse, elle ne peut se souder que dans un combat commun fondé par un certain nombre d'idées communes. Ce qui rassemble les révolutionnaires, ça n'est pas la sympathie personnelle, ça n'est pas une contrainte extérieure comme on est rassemblé soit à l'école, soit à la caserne, ça n'est pas rien de ce genre, sauf les idées communes. Des idées communes dans un combat commun organisé en commun. Et il n'y a pas de ce point de vue, l'organisation qui vient avant, les idées qui viennent après, le combat qui vient en troisième ou le combat qui vient en premier, ça ne veut strictement rien dire. C'est une seule et même chose, il n'y a pas d'hierarchie. À partir du moment où on comprend ça, on arrivera à avoir des camarades qui comprendront que c'est une tâche, qu'ils se trouvent dans la division du travail qu'actuellement c'est la leur, que d'ailleurs ils l'ont choisi parce que c'est pas une tâche qu'on peut dire toi tu vas être responsable, Sylvain ne le veut de la formation, Sylvain ne le veut pas ou il n'a jamais pensé parce qu'il s'en sortira pas. Je crois que si on pouvait commencer à avancer dans cette voie, on pourrait progresser. Donc je vais lire la liste des cercles et je demanderai à ceux des cercles, on vous gardera assis pendant les 10 minutes suivantes ou 5 minutes, après quoi il sortira au moins d'une partie de ces cercles une note écrite donnant un nom, un prénom, une adresse, le cercle et responsable provisoire de l'école dans tel cercle. Provisoire veut dire, bien entendu, que la décision appartient au cercle qui se réunira ensuite. J'ai dit que je craignais beaucoup plus tôt qu'il n'y ait pas de responsable et que s'il fallait en accepter deux, j'étais tout prêt à faire des concessions. Alors, je vois Pitié-Sainte-Pétrielle, Vincennes-Arler, 12e, Orsay-Arler, Sarcelles-Garges. Non, j'ai pas dit promenez-vous, hein. Bon. Sarcelles-Garges, Nanterre-Arler, Prépa-Arler, Massy, 5e, 6e, Aubervilliers, 18e, Sciences-Arler, Drancy, Alfortville, Aulnay, Normalienne-Saint-Germain, je ne sais pas de quel cercle, Massy, Châtelon, Lettres-Arler, Clichy, Beaux-Arts-Arler, Saint-Ouen, 19e, 20e, Villeneuve-la-Garenne, 3e, 4e, 11e, 15e, Argenteuil, Médecine, Langues Orientales, CAO Santé, Alliance Ouvrière Colombe, enfin, si les camarades de l'Alliance Ouvrière veulent prendre des mesures analogues, on ne s'y opposera pas. Vincennes, Le Perreux, 13e, Aulnay, UCL, Auteuil, UCL Buffon, Clichy, Anthony Local, UCL Balzac, Anthony AER, Philosophie AER, Arcueil Cachan. Alors, ceux de ces cercles, je vais. Comment ? Alors, j'ajoute le Rhinci, passe-moi ta. Et. Quoi ? Auteuil. Auteuil, les beaux quartiers sont représentés. En plus, mon quartier de naissance. Bon, ça. Non, moi, c'est pas si, c'est pire. Bon. Et en plus, pas d'une famille riche, faut quand même être con. Bon, Boulogne. Il y en a d'autres encore ? Hein ? Non. Comment ? J'ai rien compris. Ah, bon. CAO, oui, d'accord, je comprends. CAO ou cercle AJS ? AJS, tu vois ? Tu es pessimiste, camarade Jean-Hugues. Je t'ai toujours dit que. Bon. Bon, alors, il y en a d'autres ? Je n'ai rien compris.
Psycho.
Ah, psycho. Ça devait arriver. Bon. J'espère que vous n'allez pas m'accuser après avoir insulté les chrétiens, insulté les psychologues. Bon. Alors maintenant, vous vous mettez, vous discutez entre vous. Personne ne sort. C'est pas le moment. On sort après avoir déterminé ça et vous nous donnez un responsable provisoire dans 5 minutes.
Attends.
Et là, filez pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y.
Ouais, bouge pas. Et attendez, camarade. Avant même de vous concerter. Oh, camarade Gérard Bloch est trop optimiste. Il vous laisse partir. Il y a plein de choses à faire. La première chose, si on pouvait aller chercher la camarade Michu, je lui ai promis de lui laisser une minute. Pour jeune révolutionnaire. Alors les traditions se sont perdues d'une session à l'autre. On va les reprendre. Ces camarades, il ne peut pas se passer chaque semaine une réunion dans cette salle sans que cette salle, à la fin de cette réunion, soit propre. En tous les cas, aussi propre ou aussi peu sale que quand on l'a trouvée au départ. Ça signifie donc qu'une dizaine de camarades vont rester ensuite 5 à 10 minutes pour ranger les chaises et balayer cette salle. Alors avant même de sortir, avant même de faire quoi que ce soit, ces 10 camarades lèvent la main et on sait qui c'est. Alors, 1.
Alors les balayeurs là.
2. Sinon il est. 3, 4, 5, il n'y aura pas d'épidémie de peste dans le cas de la JS. 5, camarades, il en faut encore. 6, moquez-vous, 7, 8, 9, 10, c'est bien camarades, je ne prends pas les noms mais je crois que ça va être fait. La deuxième chose c'est. Il y a deux séances cette semaine d'écoute de la bande